When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique. Numérique.
Studio 404, présenté par l'AM UA.
Salut tout le monde, c'est la nouvelle saison de Studio 404, c'est notre rentrée, on est extrêmement content de vous retrouver. On a encore innové parce que voilà, nous c'est le numérique, c'est l'innovation. On enregistre cette émission en direct. Depuis chez nos confrères de Radio Marais, on est très bien dans un petit quartier branchou, dans une sorte de petit bureau appartement penthouse
garage
station de radio.
On est bien.
Franchement, on est bien. Ils nous apportent des bières, tout ça. Enfin, impeccable. En tout cas, on espère que vous serez quelques-uns à venir nous suivre en direct et puis nous écouter évidemment depuis vos baladeurs plus tard.
Un vendredi soir.
Voilà. En tout cas, avec moi, nos quatre acolytes. Qui sont venus
Salut.
À l'heure. Ils sont tout frais, tout allés, tout bronzés. Ça va bien tout le monde ?
Ouais.
Ouais.
Oui. J'ai fait un revirement d'état. Sylvain, comment ça va ?
Ça va super bien, écoute. Rentrer sur les chapeaux de roue, je suis très content d'être là parmi vous. Vous m'avez beaucoup manqué.
Je voudrais remercier la famille.
Ouais, c'était notre entretien extrêmement.
Très officiel.
Ouais.
Je suis quelqu'un de très officiel
très
en ce moment.
Je suis très heureux, tout va bien, j'aime tout le monde. Fibre ?
Bonjour, c'est Fibre Tigre.
Ah, ça va bien ?
C'est bien, je me sens plus hipster que jamais ici.
Ouais.
Et j'ai passé un très bon été à la Gamescom, donc plein de jeux vidéo, et j'ai vu plein de gens qui
Comment
couchaient les uns avec les autres.
C'est vrai,
les jeux vidéo. Non, mais parce qu'on va parler de coucherie dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui.
On va
donc,
voir, on va voir.
Voilà.
T'as vu des gens qui faisaient l'amour à Cologne, quand même. C'est... Donc il y a une vie sexuelle à Cologne.
Oui, la démographie repart en Allemagne.
Merci, merci développeur. Ça va, Mélissa ?
Très bien, très bien.
Bon,
j'ai envie d'être ici.
Bah oui, ça va faire le huitième mois que tu nous tiens ton projet secret, toujours secret.
Il est toujours secret, mais bientôt, peut-être le mois prochain. Revenez sur Radio Marais, vous saurez tout dans un mois.
On en est au 12e teasing, 4e bande-annonce, tout le monde genre un.
Et oui, là, on sait que tu veux savoir.
Bon, on saura toujours pas.
Tu sauras le mois prochain.
Ok, le mois prochain. Ça va, Daz ?
Ça va très bien, ouais.
Ben dis donc, pareil, tu m'en jouais.
Tout pimpant.
Mais dis-moi, Daz, tu as gagné une octave cet été, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais oui, c'est ma tentative d'essayer de me baltringuiser pour être à l'égal de tous nos auditeurs. Je plaisante, bien sûr. Non, je sais pas, c'était naturel et je vais récupérer ma voix de basse.
Eh ben, c'est bien. T'as la patate, du coup, tu vas commencer avec la première chronique.
Yeah.
Puisque Daz est constructif, il va nous proposer une nappe anti-leak.
Exactement.
Sujet numéro 1.
Nous vous fitons notre app anti-leak.
Alors, en exclusivité.
Attention, hein, les
puisque tout le monde parle de voilà.
Studio 404. On sait que le leak c'est un petit peu à la mode en ce moment, en même temps que
c'est sacré mode.
Oui, on parle de mode, hein, voilà. En même temps que le selfie, n'est-ce pas ? Et donc le dernier épisode en date, c'est Jennifer Lawrence qui a mixé les deux, a fait un combo entre selfie et leak. Enfin, c'est pas elle qui l'a fait. Enfin, si elle l'a fait, mais sans vouloir le faire, forcément. Donc, si vous aviez pas suivi le truc, en fait, bon,
le celeb gate, comme on l'appelle.
Voilà, ou le fapping. Hein, donc qui a consisté en fait à hacker les comptes de plusieurs starlettes et actrices d'Hollywood pour les mettre sur les réseaux sociaux.
Oui, parce qu'il y a Jennifer Lawrence, mais il y a un peu 60 copains et copines, enfin beaucoup de copines qui, ouais. qui apparemment vont accompagner le wagon de fuite massive.
Voilà, donc c'est du vol, hein, on est bien d'accord, c'est du piratage bête et méchant.
Ouais.
Donc c'est très mal hein, le leak, mais malheureusement c'est incontournable.
Alors c'est incontournable, ça veut dire qu'aujourd'hui si un mec veut te fuiter, il te fuite.
Ah mais le mec qui veut vraiment fuiter, fuite de toute façon, ça c'est...
D'accord.
Il n'y a pas de sécurité absolue, hein. Donc lutter un peu contre ce phénomène du leak à l'ère d'Internet, c'est comme si tu cherchais des commentaires constructifs sur le site F2 Souche ou du rap de qualité à Marseille.
Oh.
C'est peine perdue, hein, car le rap de qualité n'existe pas.
Salut les gens du 13.
Et puis surtout, lutter contre ça, c'est nier la nature de l'être humain qui, de tout temps, l'homme, a kiffé en fait balancer des infos confidentielles aux autres et aux autorités. Hashtag la France en 1942. Alors face à ce danger potentiel d'exposer le free-free de votre dulciné OF5 frénétique des hordes de forumers un peu curieux, mais pas voyeurs, c'était juste pour vérifier un truc. Il y a deux camps qui se distinguent. Donc le premier, c'est celui des psychiatres experts en infraréseau et architecture évolutive 3/3, à l'image de Serge Tisseron.
Ah, Serge Tisseron. Ah,
le fameux Serge Tisseron, qui vous conseilleront d'arrêter de prendre des photos de votre intimité tout en vous traitant d'abruti. Voilà. Et puis il y a le deuxième.
C'est très psychologue, ça, de sa part d'ailleurs.
Ah, mais oui, mais c'est, enfin, là, je
c'est
crois
son
c'était,
métier, hein.
C'était surtout l'expert infra, hein, qui a parlé, je pense. Et le deuxième camp, c'est celui des fatalistes qui vous diront que, bah, ça a toujours existé. YOLO, Live Fast Die Young, Carpe Diem, Lorem Ipsum et autres formules à se faire tatouer sur les côtes flottantes. Mais! Grâce au studio 404 et à son pôle de développement d'applications in-house, n'est-ce pas? Une troisième voie est possible. Celle de voir surgir de l'obscurité une application annihilant tout risque de fuite sur les réseaux sociaux de vos clichés un peu tendus et très tendancieux.
Alors.
Par l'utilisation justement d'un large panel de moyens coercitifs mais raisonnés, allant de l'avertissement simple à la destruction de la Corse.
Ceci est une keynote.
Parce que nous avons, oui, c'est un peu ça, c'est la keynote avant l'heure. Nous avons en effet constaté que le lien de confiance qui unit deux parties quant à la non-divulgation de données confidentielles était aussi solide qu'un smartphone Samsung en plastique. C'est un piégeonasme.
Un piégeonasme,
puisque tout le monde sait que les smartphones Samsung sont toujours en plastique.
Attends, comment ça m'a dit métal? Mais bon, ouais, c'est notre histoire.
Ouais, enfin, vite fait. C'est pour ça que notre app / réseau social, parce qu'elle fera les deux, que j'ai décidé de baptiser Self-Curie-Too.
Hein, Self-Curie-Too?
Self-Curie-Too, ouais. Parce que selfie, voilà,
ouais.
Plus sécurité, plus itou, parce qu'on est en France et qu'il faut terminer les trucs par itou pour que ça soit stylé.
Avec deux, comme
Wanadu.
Ouais.
Hein,
Wanadu. Quel coup.
Donc ça permettra l'échange de selfies de type coquin. Et ça sera la plateforme la plus sûre d'Europe continentale grâce à des mécaniques de fonctionnement révolutionnaires que je vais vous citer.
J'ai hâte de voir ça.
Tout d'abord, on parle de l'authentification. La nôtre sera étendue. Parce que le mot de passe, on sait tous que ça date, c'est super 1974, voire 1973. Et notre app à nous, elle utilisera la biométrie. Donc les empreintes digitales et vocales, ainsi que la reconnaissance faciale, tout ça en même temps.
Donc il va falloir faire une sorte de...
Ouais.
C'est se placer bien.
Un petit peu de gymnastique. Mais vu que les smartphones font tous 18 pouces de large maintenant, de toute façon, il y a la place de mettre les mains partout. Les captcha qu'on va évidemment utiliser systématiquement dès le départ, seront en araméen. Avec un caractère 7 en UTF 256. Et un quiz sur la connaissance des théories économiques de Schumpeter, permettra d'accéder au réseau.
Si es-tu un robot? Non.
Oh, ça sera trop simple. Donc là, vous avez bien compris qu'avec ce truc-là, les attaques par dictionnaire et par force brute, c'est du passé, les gars.
Ah, bien, bon début.
Deuxième feature, le non-stockage.
Comment ça?
Donc ça, c'est sur le principe de Snapchat. Les clichés qu'on reçoit sont supprimés de l'application après visualisation. Là, on évite la tentative de divulgation en appliquant une méthode qu'on a baptisée l'épicerie nord-coréenne, qui stipule en gros que c'est super difficile de voler des trucs quand il n'y a pas de magasin ou quand il n'y a rien à voler dans le magasin. Donc, ça, c'est la super technique. Le troisième point, c'est la réciprocité de l'échange.
Ouais.
Et là, j'insiste parce que ça, c'est une vraie feature que personne.
Alors, c'est quoi la réciprocité de l'échange? Ça me paraît plus obscur que les
deux
premiers.
C'est le même principe que le seeding quand tu télécharges, des trucs Lego.
Bien sûr.
En peer-to-peer. Ça sous-entend que tout selfie que tu reçois nécessite de ta part la prise d'un cliché équivalent envoyé à l'expéditeur d'origine. Voilà.
Donc, et donc là, après, t'as un ratio upload download,
ouais,
quoi.
T'as un ratio upload download et t'as même un ratio peau visible sur le cliché. Il y a un algorithme super puissant qui sera chargé d'analyser en fait le taux de peau présent sur l'image pour être sûr que les échanges seront bien proportionnels. Et évidemment, on a un détecteur de leggings couleur chair.
Ah, j'y pensais.
Voilà, mais parce que voilà, on sait qu'il y a des tricheurs, donc. Alors là, les connaisseurs auront compris qu'en faisant ça, on applique en fait au monde du numérique une doctrine super simple et assez efficace qui s'appelle la destruction mutuelle assurée, ou DMA, et qui permet donc à nos démocraties de rester cool par le biais subtil de l'emploi du feu nucléaire. En gros,
donc
c'est
en
ça.
Gros, on aura tous des dossiers nucléaires les uns sur les
autres.
Voilà,
c'est-à-dire que tu reçois un dossier, oh, j'ai envie de le partager. Si tu fais ça, bam. Ton quelque chose fuite sur internet.
C'est beau.
Le quatrième point, c'est évidemment l'absence totale de screenshot. Donc là, le lancement de l'appli désactive automatiquement les fonctions de prise de screenshot pour éviter de contrevenir au point 2, qui était le non-stockage, n'est-ce pas?
Le béaba.
Voilà, donc ça c'est le béaba. Il y a évidemment aucun souci pour implémenter ce truc-là dans Android, puisqu'on peut faire n'importe quoi avec avec le système. Sur iOS, ça sera un peu plus difficile. Mais on a de l'expérience, hein, puisque je vous rappelle que au Studio 404, il y a des gens qui, en lançant une application, réussissent à diminuer la luminosité de l'écran.
Et oui, des experts.
Petite pique à Sylvain, son application GetKind.
Mais qui est très bien.
Kind.
Le cinquième point, c'est les déconnexions aléatoires.
Les déconnexions aléatoires, mais là, c'est plus des features, ça commence à troller tes propres utilisateurs.
C'est pas ça. C'est que la sécurité avant tout, hein, c'est le credo, c'est ce qui a présidé, n'est-ce pas, au développement de notre application, en tout cas aux spécifications de l'appli. Donc, contrairement aux applis qui restent connectées pour toujours quand tu te logues la première fois, notre application procédera à des décos intempestives un peu n'importe quand pour s'assurer que l'utilisateur est bien le propriétaire du compte. Notez bien que si vous êtes chez Free, cette feature est déjà intégrée dans votre abonnement. Et enfin, le sixième et dernier point, c'est l'utilisation intensive des métadonnées. Donc, chaque cliché que tu recevras sur ton téléphone se verra joindre une copie en PDF haute résolution de l'annuaire du Val-de-Marne en guise d'exif. Donc ça permet en fait de ramener la taille de chaque photo.
C'est les métadonnées.
C'est tous les détails qui sont annexés à la photo. Donc là, avec cet exif-là, on va avoir un cliché d'à peu près 12 gigas. Hein, donc ça permettra de
ça fait lourd le selfie. Hein.
Oui, ça permettra de consommer le forfait mobile à peu près en une seconde en fait si tu as le malheur de divulguer la photo. C'est-à-dire si par hasard, mais j'en doute, hein, si les 5 points précédents avaient été contournés habilement par des mecs très intelligents.
Et dans les membres de ton réseau, ils ont du courage hein, pour contourner tout ça.
La sécurité. C'est la sécurité qui préside. Hein. Donc là, bon, ça c'est juste un petit aperçu de ce qu'on propose de mettre en place pour permettre à tout à chacun de continuer de prendre des photos à poil et de les partager avec qui de droit, donc homme ou femme, hein, on est chez Radio Marais, en utilisant comme vecteur ce réseau très intimiste et totalement personnel qu'on appelle Internet. Voilà. Et pour conclure, parce que quand même, on est un peu dans le monde du web 2.5, hein, et de la start-up, le Clumeur, tout ça, je citerai Fleur Pellerin, hein, qui en 2013, lorsqu'elle était... Non, alors, ministre actuel de la culture, mais à l'époque, cette citation date de quand elle était en charge de l'économie numérique. Attention, on voit les guillemets. J'allais faire un accent chinois, mais non.
Coréen.
En plus, elle est coréenne. Je suis favorable à une solution du type no opt-out par défaut. Voilà. Je pose ça là, parce que je n'ai toujours pas compris cette phrase, mais je la trouvais géniale. Voilà.
Merci, Laz. Attends, un petit résumé quand même de tes 6 points pour ton application révolutionnaire.
Alors, les 6 points, donc, il y a une authentification.
Parce qu'il y a Mark Zuckerberg qui écoute des fois, tu vois.
Avec un accent américain.
Je sais pas faire. Il faudrait demander aux Américains qui sont partis, qui étaient derrière nous. Authentification étendue, donc super relou de se connecter.
Ouais.
Non stockage, donc super relou de gérer. Réciprocité, donc super relou de leacher.
Ouais.
Zéro screenshot, donc super relou de frapper.
Ouais.
Déconnexion aléatoire, donc super relou
à utiliser. Ouais. Ouais, d'accord.
Et utilisation intensive des métadonnées, donc là c'est super relou à transférer et à payer son forfait.
T'as déjà un bon nom d'app,
super relou.
Ouais, super relou. Super relou tout.
Non, mais en gros, c'est surtout que tu décourages les mecs d'utiliser ton réseau, donc ils ne diffuseront jamais
eh
rien
bien,
via notre
seul
réseau.
Seuls les pénitents
le passent.
Pourront le passer.
Le FAP. Seuls les pénitents, le FAP,
c'est très bon ça.
Ah, non, et sous le rire quand même, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont en train de penser. On a vu il y a quelque temps un téléphone qui était censé être crypté. Il y a des gens qui vont, je suis sûr qu'il y a un marché pour que des gens se disent je peux avoir une app 100% je sais pas anonyme sécurisée anti fuite anti tout.
C'est impossible. On l'a vu avec la chronique sur le password.
Ouais,
c'est pas possible.
Même si un mec qui veut prendre une quintuple
sécurité. Regarde le cas de Secret. L'application qui permet aussi de balancer des petits secrets
Des petites confidences
en mode totalement anonyme en fait vu que Secret comme tu peux pas choisir de friend sinon ça bute un peu le principe l'appli synchronise ton répertoire et après t'as juste à procéder par élimination pour savoir qui a balancé quoi ça n'existe pas c'est impossible
il faut avoir du temps devant soi mais les gens ont le temps j'ai l'impression
on a tous du temps
si tu voulais dire quelque chose
j'ai une solution qui est pas drôle. Ah. Mais est-ce que je peux la dire ou pas?
Parce que celle de Daz, elle est drôle, mais en fait...
En fait, déjà, quand on se renseigne un peu sur le Fappening,
On rappelle, hein, le Fappening, c'est un des noms du leak massif de photos dénudées intimes.
Voilà. L'explication officielle, entre guillemets, c'est que le cloud, le nuage, a été piraté de Apple,
un service
de stockage de données. Mais en fait, il y a des gens ont mené leur petite enquête sur 4chan, notamment, c'est-à-dire le forum là où les images ont émergé. Et certaines personnes ont dit, premièrement, il y a des photos qui sont trop vieilles pour que ce soit du cloud. Deuxièmement, c'est trop synchronisé. Et donc, il y a deux théories. Il y a la théorie d'un leak massif de collectionneurs qui disent d'un coup, on met en commun et on crée un événement.
Ça serait une conspiration.
Les mecs, ils avaient déjà depuis longtemps non, et en fait, ils voulaient.
C'est une sorte de vide dressing de Blogger's Mode, mais du leak.
Il y a une économie souterraine qui dure depuis des années d'échanges de photos. Piraté sur des téléphones ouais. de personnes comme toi et moi, genre c'est comme le revenge porn, c'est je me suis fait larguer par mon ex, je pose sa photo et son nom Facebook sur un forum et je paye des gens pour qu'ils aillent chercher des photos d'elle sur son smartphone que je peux utiliser contre elle pour lui faire du mal. Et en fait, ça existe depuis
tout un
des
petit
années,
marché, quoi.
Il y a tout un petit marché de photos de célébrités et il y a des collectionneurs qui payent en Bitcoin pour récupérer des photos et visiblement, c'est un collectionneur qui a fait leaker ses photos perso qu'il avait collectionné depuis des années.
Et d'ailleurs, les philatélistes,
c'est de la pornatélie.
Des fapatélistes.
C'est des fapatélistes. Ouais.
Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a retrouvé la personne qui n'est plus chez elle. Et c'est un administrateur réseau. Il faut voir que pirater quelque chose, c'est difficile. Mais quand vous êtes administrateur réseau, en fait, vous êtes le gardien du temple des secrets. C'est-à-dire, vous êtes le gardien du disque dur de la personne.
D'ailleurs, ils mettent ça sur leur carte de visite, les mecs.
Oui, bon,
gardien du temple des secrets.
Gardien du temple des secrets. Non, mais c'est vrai. Et donc, c'est un petit peu plus facile. Je dis pas que c'est plus facile parce qu'après, on va avoir des administrateurs réseau qui vont nous détester. Mais disons que administrateur réseau aujourd'hui, c'est une profession très importante, très respectable en termes de compétences intellectuelles, mais qui n'est pas réglementée. C'est-à-dire que si vous commettez un délit, vous êtes jugé comme un citoyen normal. Mais demain, si vous vous faites opérer de l'appendicite et que votre chirurgien, il prend des photos de vous tout nu pendant que vous êtes en train de vous opérer et qu'il fait des leaks.
C'est le leak d'organes, je sais.
Vous êtes payé cher pour ça.
Vous êtes exclu de l'ordre des médecins.
Oui, voilà. C'est plus grave
et
que ça.
Il n'y a pas, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, il y a une congrégation officieuse de white hats, black hats, donc des gentils hackers, des méchants hackers.
Les admins réseau, ils n'ont pas non plus, ils n'ont pas un ordre des admins réseau.
Exactement, mais une solution qui ne serait pas une application, ce serait de créer une certaine d'ordre et de code d'honneur de l'admin réseau pour que le mec, s'il a fait ça, c'est-à-dire s'il a, il a pioché dans un disque dur sans la permission, il soit banni à vie. C'est-à-dire qu'il soit pas simplement sanctionné.
Ce serait le serment de Tim Berners-Lee, un truc comme ça.
Il y aurait forcément des mecs qui s'en foutraient.
Je rappelle que dans un data center.
Il y aurait toujours des admins réseau sauvages, mais t'as toujours des médecins sauvages.
Il y a plein de Chinois qui pratiquent la médecine.
Je rappelle que dans un data center, c'est-à-dire là où sont stockés les disques durs ou là où travaillent les admins réseau, c'est un incendie. La première chose qu'on fait, c'est qu'on retire l'oxygène. C'est-à-dire que la vie humaine est moins importante que les restes. Non, mais c'est histoire vraie. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui comprend pas la légère. Et donc, si les admins réseau, eh ben, ils s'organisaient dans un ordre mondial, peut-être qu'on aurait plus de choses de ce type-là.
Alors, de l'autre côté d'un ordre mondial possible. Mélissa, qu'est-ce que t'en penses en tant qu'utilisatrice, toi? Est-ce que tu serais,
toi qui envoies des photos nues?
Moi qui envoie des photos nues tous les jours.
Non, mais est-ce que toi, est-ce que tu signerais pour un réseau qui trouverait des solutions pour qu'on puisse garder une vie privée? Alors, il y a le gag de s'envoyer des selfies nues sur la chronique de Daz, mais au-delà de ça, est-ce que tu signerais pour un réseau qui pourrait être un peu pénible à utiliser, mais 100% sécurisé? Ou est-ce que ces histoires t'ont fait dire, fuck, j'arrête tout? Ou deux, fuck, je continue, mais je sais que ça pourrait liquer un jour. Et on a YOLO swag.
La grosse répute de meuf qui balance des photos mais... non, mais oui, j'adorerais. Mais moi, en fait, du coup, ma politique, c'est que, en fait, j'en envoie jamais. Donc, en me disant, on sait jamais où on en sera dans 5 ans.
Donc, toi, de toute façon, tu es du genre à ne pas envoyer.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est
Serge Tisseron serait fier de toi. Tu sais.
C'est que les collections de photos liquées de ces mecs-là, parce que c'est des mecs, c'est que des collections de filles.
Ouais, c'est ce que j'ai remarqué.
Moi, j'aurais bien, j'aurais bien voulu voir des
photos de John Hamm à poil, quoi.
Il y a eu des leaks d'hommes, mais qui n'ont jamais fait plus grand bruit que ça. On a eu le phallus de, le chibre de Kanye West. On a eu la sextape de Colin Farrell, mais globalement, les gens s'en foutent.
C'était du fight de rappeur, ça, en même temps.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Mais moi, j'aurais bien voulu voir le pénis de John Hamm, il paraît qu'il est d'une certaine taille.
Comme disait Daz, curieuse mais pas voyeuriste. Hein.
Curieuse.
Mais c'était que des actrices. Voilà. Pourquoi que des actrices?
Quand on ira chercher des fonds pour faire un troisième tour de table avec Venture Capital, c'est Sequoia pour l'application de Daz, on l'appellera la tub à John Hamm. Allez, la première fac. on le fait en live. Oh, oui. Non mais c'est vrai qu'on le fait Non mais on s'est approché à chaque fois du graal du direct. Et donc là on est vraiment plus qu'on a des conditions du direct, on est en direct.
Est-ce
et voir en live.
Est-ce que c'est les aléas du direct parce qu'ils ont toujours dit ça.
Ah c'est vrai. Ah les aléas du direct. Attention, Gislain, tu nous envoies le direct.
F A Q.
Ah moi je me sens mieux comme ça. Ouais, j'ai mes repères.
C'est plus safe.
Alors première question, une petite question marrante, c'est la rentrée, hein.
Allez, balance.
Alors, un utilisateur qui s'appelle Celui qui boit, moi je pense qu'il porte bien son nom du coup, mais dit, je pense qu'il a bu en posant cette question. Les utilisateurs de Twitter sont tous devenus humoristes, mais que vont devenir les utilisateurs de Google+? Quel rôle vous leur donneriez aux utilisateurs de Google+? Hein, si les twittos sont tous des stand-uppers et des mecs qui ont des punchlines, des éditorialistes, alors Hein, Sylvain, le fan
alors,
de Google.
Google Plus, c'est mon domaine d'expertise. Hein. Moi, je me considère comme un plusseur.
Ouais. Un plusseur.
Depuis deux ans, il me croit.
Un plusseur, ça. J'essaye de m'accrocher à une embarcation qui ne coule pas puisqu'elle n'a jamais quitté le port.
C'est bien simple.
Non. Les utilisateurs de Google Plus, c'est des papas. C'est des experts. C'est la famille. C'est les photos de famille. C'est simple. Google Plus, c'est l'évolution de Picasa.
D'accord.
Merde. Les gens l'utilisent, ils sont utilisateurs actifs de Google Plus parce qu'ils partagent des photos. Donc okay. Peut-être sur Google Plus, parce qu'en plus il y a des effets vraiment foireux. Ouais. Ils vont pas devenir humoristes, ils vont tous devenir photographes en utilisant la technique de la HDR.
Voilà, la photographe HDR.
Ouais, ils font beaucoup ça.
Quel rôle tu pourrais donner à nos amis Google Plus?
Alors, c'est très très clair dans ma tête. Non mais parce qu'ils disent c'est les papas, et en fait c'est les gens comme Sylvain. C'est-à-dire les deux trois personnes au monde qui que je connais qui aiment Google Plus, c'est Sylvain, le mec d'Allo Resto qui dit il y a un taux d'engagement de folie, et le CM de Doctissimo. C'est-à-dire en fait si t'es CM, si t'es dans l'ambiance market CM de Paris, tu kiffes Google Plus parce que je pense que Google doit t'inviter à des soirées sympas, mais sinon il y a pas grand-chose, ça bouge pas trop.
OK, donc pour toi c'est les CM.
Ouais, les CM.
Plus d'utilisateurs actifs que Twitter. Même non, parce que le partage des photos
et taux d'engagement de folie.
Parce que tu fais un commentaire sur YouTube, t'es utilisateur actif sur Google Plus. Mélissa, est-ce que tu leur donneras un petit rôle à eux?
Bah, c'est des gens par défaut. C'est des internautes par défaut. Ils sont là, ils savent pas trop pourquoi ils sont là. Ils savent même pas qu'ils sont là parce qu'ils vont pas sur Google Plus, ils sont quand même sur Google
Plus. On les appelle les ouhou parce que ces mecs font ouhou.
Il y a quelqu'un, c'est très très grand ici.
Il y a un écho, il y a plein de followers, il y a plein de gens,
c'est très
il y a
propre.
Mais tu sais pas où t'es. Bon, moi, j'y vais jamais.
Non, faut les respecter, ces mecs-là.
Alors, toi, tu les respectes. Tu leur donnes quoi comme rôle, toi?
C'est les gardiens d'un certain sens du statique. C'est-à-dire qu'en fait, la timeline, ce qui est cool avec Google Plus, c'est pour ça que le taux d'engagement est magnifique, c'est que le statut que tu postes, bah finalement il reste là pendant 8 jours puisque il y a personne pour venir gonfler ta timeline et la faire scroller.
C'est que tu peux suivre 2000 mecs et jamais être débordé par le truc.
Ouais, mais c'est ça. Donc c'est
je pense que
je profite de l'antenne pour établir une vérité parce que j'ai l'impression de me faire molester là. Quand on dit qu'ils sont utilisateurs par défaut, c'est faux parce que toutes les études qui montrent le nombre d'utilisateurs actifs, c'est du déclaratif. Donc c'est on demande aux gens: êtes-vous allé sur Google Plus le dernier mois?
Bah oui, moi aussi j'y suis allé, mais bon.
Bah voilà, tu vois.
Bon,
voilà,
en tout cas, pour les 4 utilisateurs de Google Plus en France, on a 4 rôles bien définis pour se les partager de manière très équitable. Ça vous fera plaisir. Allez, on attaque le deuxième sujet.
Sujet numéro 2.
Face au village global, le village gaulois résiste.
Ah, alors c'est Fibre, il est revenu de Chine, il est revenu des tréfonds d'Internet, il est revenu du cybersex écrit pour revenir sur un truc bien local. Enfin, on disait gaulois, mais c'est plutôt pour dire le village très local, Fibre. Quelle est ta théorie?
Il s'est passé tellement de choses politiques ces derniers jours en France, mais il y a 2 jours, souvenez-vous, c'était loin, Manuel Valls, notre Premier ministre, fait un discours enflammé. Il parle de tas de trucs bizarres. À un moment, il dit « village global », c'est-à-dire Internet. Et puis après, il passe à autre chose. Donc ça, c'était la seconde d'Internet dans son discours. Eh bien, Monsieur Valls... Village global, c'est un peu has-been comme expression, sauf si après votre mandat, vous envisagez de devenir chroniqueuse débutante Nouvelle Techno au Grand Journal. Et surtout, c'est complètement faux.
Petit message.
C'est faux.
Pourquoi c'est faux?
Parce que Internet n'a pas transformé le monde en un village global, entre guillemets, et en plus, c'est une très mauvaise traduction parce que on devrait dire village mondial. Ça veut dire sinon village en forme de globe en français, donc.
Ouais, là, t'es vraiment, tu joues au très très
bien. C'est pareil pour digital, c'est chiant.
Voilà. Parce qu'un jour, on aura une fac là-dessus, souvenez-vous-en. Donc l'expression date de 1967, conçue par l'instant Sylvain Palais, Marshall McLuhan, sociologue et philosophe.
Ma star.
Voilà. Mais l'idée est encore plus ancienne. Souvenez-vous, à l'apogée du chemin de fer, il y a 2 siècles, on disait que, entre guillemets, la planète avait rétréci. C'était le pitch du Tour du Monde en 80 jours. Donc, pourquoi c'est faux? Parce que déjà, il y a des continents entiers qui sont pas connectés. C'est-à-dire, s'il y a certains morceaux de la Russie ou de la Chine, vous pouvez pas y aller parce que votre IP, elle est rejetée. Il y a certains... pays, vous irez jamais, comme le Japon, parce que, vous savez pas parler japonais.
Et là, t'as tous les fans de manga qui reviennent à la Japan Expo qui sont là, non, pas du tout.
Bon, pas vous, mais d'autres. Et, je suppose que vous arrivez pas souvent de regarder Wikipédia, un même sujet, sous différentes cultures, peut-être autre que l'anglais, avec Google Translate voilà. Pour voir comment certains sujets sont traités. Donc.
Il y a une localisation qui est très forte.
Et voilà. Et vous ne serez jamais sur le réseau social le plus puissant du monde. Enfin, en tout cas, qui sera l'année prochaine, c'est Weibo. Et qui a aujourd'hui 130 millions d'utilisateurs actifs. C'est-à-dire 130 millions de personnes qui postent tous les jours. Et les 10 premiers utilisateurs de Weibo ont plus de followers que les 10 premiers utilisateurs de Twitter. Reddit n'est pas massivement consulté en France. Il l'est un petit peu.
Oui,
Leboncoin.fr n'est pas massivement utilisé à l'étranger.
Cela
étant, Voilà, oui, il y a au Brésil. Non, au Brésil, il y a Bueno Gocho. En Argentine, il y a Bueno Acueldo.
Mais c'est pour de vrai ou c'est
un... Ah, c'est vrai, mais c'est pas les, c'est pas la même chose. Mais c'est différent, voilà. Donc les outils comme Google, ils ont une universalité, mais les cultures restent différentes. On nous demandait il y a quelques émissions dans une fac, souvenez-vous, s'il fallait être parisien pour être dans le coup numérique. La question n'est pas innocente.
Ouais.
Elle n'a pas été sélectionnée par l'âme innocemment. C'est dans les réseaux sociaux, les gens ils sont pas parisiens, mais il y a un état d'esprit parisien. Soyez pas d'accord, tant mieux.
On peut en reparler, mais je pense que Fibre a un point. C'est intéressant.
Voilà. État d'esprit parisien.
Donc en fait, plus vous utilisez habilement Internet, moins vous allez loin, plus vous êtes sédentaire. Vous allez chercher un travail près de chez vous. Vous allez acheter un piano, non pas à l'autre bout de la terre, mais à côté de chez vous.
Vous allez chiner les filles de votre région.
Voilà.
Moi, il paraît que les filles de ma région qui veulent baiser avec moi.
Après, oui, c'est ça. C'est après, même, il y a le data center le plus près qui est indiqué. Comment ça se fait?
Pour ceux qui utilisent Tinder autour de cette table, il y a les gens près de vous.
Pire que ça, vous allez trouver des gens qui correspondent à vos passions, la pêche à la truite, les maquettes de méca, etc. Et comme vous allez avoir un flot ininterrompu...
Les maquettes de truite.
Comme vous allez avoir un flot ininterrompu de news sur la pêche à la truite, vous allez toujours rester dans votre monde de la pêche à la truite, vous n'allez jamais aller ailleurs.
Donc en fait, on a un monde de niches et de cellules fermées.
Voilà, c'est de plus en plus de niches. Et là où c'est la grande trahison de la vision de McLuhan, c'est que lui, quand il pensait village global, il avait une grande vision, il allait se dire, les gens vont penser écologie, les gens vont penser paix, les gens vont penser égalité, partage des richesses, etc. Alors effectivement, ce sont des thèmes qui sont abordés sur la toile, mais en fait, comme tout le monde n'est préoccupé que par sa propre existence, je suis vegan, donc je suis. Les idéologies sont mises en avant par souci d'existentialité personnelle, ouais. Et pas par venez, on va empêcher le réchauffement climatique, mais plutôt fave si t'es contre le réchauffement climatique. Et donc, on est dans la trahison des idées de McLuhan. Alors, l'âme m'a demandé de dire ce que j'en pensais de tout ça.
Bah oui,
voilà. C'est le but.
En fait, je suis... Bienvenue à Studio 404.
Voilà. Je voulais préciser dans les idéologies que parfois il y a des petites tentatives comme le hashtag Bring Back Our Girls. Pour les jeunes filles, ne les oublions pas, Bring Back Our Girls. Hein.
Ouais.
Mais comme toutes ces tentatives qui n'ont pas lieu à l'existence de Twitter ou de mini-star de l'internet, bah ça tombe à l'eau et ça n'a aucun résultat. Attends, si vous avez des contre-exemples, allez-y.
On a vu partout des images de ça et ça a fait une grosse campagne de lobby.
Et elles, les filles, sont toujours enfermées alors qu'il suffirait d'envoyer 6 tanks là-bas. Non, mais c'est vrai.
Non.
La diplomatie.
Qu'est-ce que vous voulez faire de la diplomatie? Bon, de toute façon, ça nous dépasse tout ça. Mais en tout cas, le problème n'est pas résolu.
Je pense que là, t'as pas des raccourcis avec un tank, tu à travers les trucs quand tu vas tout droit dans votre
non bon, quand j'ai 6 tanks qu'on peut en envoyer pour avoir 10 000, peu importe,
je pense que c'était pas ça le problème, mais on continue
peu importe ça raccourcit, je veux bien l'admettre,
c'est un sacré raccourci.
Mais cela étant, vous pouvez pas nier que ça n'a eu aucun effet factuel. Donc moi je veux voir le village global non pas comme une réalité ni comme une prédiction, mais comme un but à atteindre, que éventuellement un jour effectivement l'internet nous transforme, qu'on ne soit plus des chauvins français ou des chauvins chinois et qu'on s'intéresse à autre chose. Maintenant, à titre personnel, j'avais un compte sur Weibo, j'ai fait une chronique dessus, bien je sûr. L'ai fermé. Je n'utilise plus, avant j'utilisais Frugal par exemple pour faire acheter une guitare moins chère en Allemagne, maintenant j'utilise Price Minister. Je redeviens franco-français, parisiano-parisien, parce que pourquoi ? C'est plus simple. Voilà, c'est moins prise de tête. Effectivement, le monde est vaste, on peut pas tout connaître. Alors autant connaître les choses qui sont près de chez moi, ce sera plus pratique et plus utile. Voilà. Et ma conclusion, c'est il n'y a pas de village global. Il y a 7 milliards de villageois qui sont globalement dans leur bon coin. Voilà.
Oh là là, donc ta vision de la vie, c'est le bon coin.
Voilà, le bon coin.
Un joli site.
C'est beau. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est On connaît l'étendue d'un village théoriquement global aujourd'hui avec Internet, et ça nous donne presque envie de rester chez nous avec nos amis, nos voisins et nos commerces de proximité.
Oui, en fait, disons que c'est une fausse idée. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans un village global, on est dans un Internet français.
Alors,
français, voire parisiano-parisien.
Nouvelle ère.
Daz.
Je suis totalement d'accord avec Fibre Optique.
Comment ça?
C'est incroyable.
On vient de croiser les effluves, là.
C'est mon disciple.
Auto-surpris. Non, parce qu'en fait, le sujet qu'il a évoqué, effectivement, j'en avais déjà parlé il y a quelques années, n'est-ce pas? Et en fait, j'étais arrivé à la même conclusion sur l'aspect gamer. C'est-à-dire qu'au départ, quand on jouait en ligne, c'était avec la possibilité de jouer contre des Américains, des Chinois, des Japonais, etc. Et qu'en fait, pour des raisons de ping, de langue, de mentalité, aussi,
on se retrouve en fait à se recroqueviller et à jouer avec des gens qui pensent un peu comme nous, qui sont pas trop loin pour pas avoir un ping tout pourri pour la réactivité dans les jeux. Et au final, on se retrouve à jouer qu'entre Français.
Donc cette, on va appeler ça la gaullisation, mais la localisation.
La localisation, ouais.
En fait, c'est quoi? C'est
pour moi, c'est un mirage.
C'est autant technique qu'intellectuel finalement. Il y a des contraintes techniques, puis en même temps, intellectuellement, ouais, c'est plus confortable.
Bah, la contrainte technique a super servi en fait. C'est-à-dire que
ça va être prétexte à, ouais, à votre étroitesse d'esprit.
C'est ça. Mais j'assume, attention, c'est totalement assumé. C'est-à-dire que là,
toi, tu le côté un peu, je suis un peu, ouais, là-dessus, ouais.
Avant, là où avant tu disais j'ai pas envie de jouer contre des Africains, là tu peux dire j'ai pas envie de jouer contre des gens qui sont beaucoup trop loin avec un ping de merde, tout simplement.
Oui, mais je partage. Hein, ça existe plus vraiment.
Sylvain.
Si. En plus, les histoires de ping.
Bien sûr que
moi,
si.
Je joue avec j'adore les Allemands. J'adore les insultes allemandes sur Battlefield. Alors, je joue beaucoup avec les Allemands. Ça me plaît beaucoup.
Non. Franchement, il y a. Tu vois, ou alors, l'Allemagne, c'est un pays qui est quand même frontalier avec la France, quoi.
Ouais,
donc,
qui est proche.
Essaye avec des Chinois, tu vois.
Mais c'est marrant. Mais j'ai l'impression que se refermer dans ce web français local, c'est juste parce qu'on est un petit peu obtus et que c'est plus facile d'être entre nous. C'est comme accepter un poste à l'étranger, tu réfléchis à deux fois parce que tu parles pas très bien anglais, parce que c'est chiant, etc. Mais pour moi, c'est pas Internet, c'est les Français qui font qu'on se referme sur la France.
Ah, tu penses
que tout le monde fait pareil dans son pays.
Typiquement français.
Tu crois pas que les Allemands sont refermés sur eux-mêmes?
Les Chinois, parce que les Allemands parlent très bien.
Les Allemands, ils ont un problème.
Non, mais regarde, on parle tous anglais ici.
Ouais, mais est-ce que toi, Sylvain,
tu aimes utiliser des sites ou des services qui sont loin, on va dire, au sens littéral du terme, de la France ou de toi? Est-ce que c'est aussi cet éloignement est une partie de ton excitation, ton envie d'utiliser un service ou des réseaux ou d'aller acheter des choses, etc.?
Déjà, je trouve que l'exemple du Bon Coin, c'est pas un exemple du tout, parce que c'est normal. Effectivement, c'est un truc de petites annonces, donc je vais pas aller sur un site de petites annonces en Allemagne si je veux acheter localisé à côté de chez moi. Donc c'est,
oui, mais
c'est
un bon temps, on allait sur Craigslist aussi. Enfin, moi, j'allais sur Craigslist pour faire des trucs français, quoi. Alors que le site est américain.
Oh, et certaines personnes
vont sur Reddit avant d'aller sur le Bon Coin.
Est-ce que
aussi d'autres gens.
Est-ce que sur, par exemple, Mélissa, sur je sais pas, Facebook ou sur Twitter, tu essaies de suivre des gens que tu ne connais pas, donc qui sont loin, on va dire, moralement et géographiquement de toi, ou est-ce que tu vas suivre des cooptations d'amis qui font qu'effectivement tu tournes dans des sphères qui sont très locales finalement, et qu'en fait Internet c'est un peu comme pareil, tu dis je peux aller voir la Tour Eiffel, puis tu vas jamais la voir, tu restes plutôt dans ton quartier.
Bah, je suis beaucoup d'Américains. La moitié de ceux que je suis, je pense, sont Américains. Mais après, ça reste des gens.
Attention, Luc Lemeur est français, hein, il n'est pas américain.
Et breton, même.
Dans le monde des médias, donc ça reste proche de ce que je fais dans la vie.
Voilà, c'est ton occupation.
Mais...
c'est ça.
Donc,
En même temps, j'utilise Twitter, qui n'est pas un outil français. Donc, qui m'a amené.
Moi...
au début, quand j'y étais, au tout début, il n'y avait que des Américains.
Oui, mais du coup, c'est beaucoup francisé.
C'est beaucoup francisé avec les années.
Je supporte pas qu'un réseau international comme Twitter, Facebook localise le contenu parce que je suis français.
Là, vous le voyez pas, mais il s'énerve.
Pinterest, non, mais c'est un truc qui m'énerve vraiment. Pinterest te propose, quand tu fais de la recherche, des résultats de français qui sont dans ta ville, qui sont dans ton pays, etc. Je supporte pas, moi, je veux pas un filtre.
Toi, tu veux une globalisation.
Moi, je veux une globalisation. Mais d'ailleurs, il y a une théorie qui est plus vieille que celle de McLuhan et qui est née avec Internet, qui est celle des little boxes, les petites boîtes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des micro-communautés dans lesquelles on vivote et dans lesquelles on est confortable, mais entre ces différentes communautés qui sont éparpillées sur la planète, il y a quand même des liens. C'est-à-dire que moi, si demain, je veux aller voir les pêcheurs à la mouche qui pêchent la truite, mais dans une rivière d'Écosse, eh ben, je peux très bien aller sur ce forum-là. C'est pas ma proche communauté, mais je peux très bien intégrer cette communauté parce qu'il y a des passerelles.
Oui, d'accord. Donc la passerelle, c'est des intérêts communs, donc ça reste un peu.
Oui, mais c'est pas du local.
Oui, mais tu
es toujours avec des gens qui pensent comme toi ou qui ont les mêmes passions que toi.
On se demandait surtout, en fait, le débat, c'était plus de savoir, au-delà des intérêts qui n'ont pas de race ni vraiment de frontières ou de lieux, c'était de savoir si on avait une utilisation d'un outil qui est censé être global, une utilisation qui était finalement locale. Voilà. Donc là, effectivement, Sylvain peut aller sur des forums de pêcheurs à la truite écossais. Et peut-être que le fait que tu sois écossais, ça va l'exciter plus que
chose. Vous savez, le fameux cercle, il y a un cercle, une map avec un cercle qui est sur la Chine et l'Inde. Et il y a marqué qu'il y a plus de gens dans ce cercle qu'à l'extérieur du cercle.
Ouais, ouais.
Et si ce cercle, c'était une muraille numérique dans laquelle on ne pouvait pas rentrer, ça ne changerait rien à nos vies.
C'est vrai. Enfin, il y aura toujours un auditeur pour nous dire oui, moi j'adore le web chinois ou le web indien, mais globalement
il est là.
Non, mais il y aura aussi des hotlines qui sont en Inde, par exemple, des choses comme ça. Mais franchement, il y aura rien qui changera.
Et ça ne vous manque pas. Vous dites pas ah mince, finalement, effectivement, je joue.
On passe à côté de quelque chose.
Comme on sait qu'on peut y aller, on se dit ah ça va. Et en fait, si on l'avait pas, je pense qu'on on essaierait tous d'y
aller. Non, mais par contre, on va tous en Amérique sur Internet, c'est sûr. Mais je pense que c'est calqué aussi sur l'économie du monde, quoi. C'est la mondialisation avec un Occident qui est très fort, et donc on reste dans un Internet occidental.
Et dernier petit point, Daz en parlait, il y avait des choses un peu techniques. Imaginons qu'il y a une solution technique qui nous permette d'avoir un équivalent de, je sais pas, de traduction instantanée et très juste d'espéranto numérique, quelque chose qui fasse que tout le monde se retrouve à l'espéranto. C'est dur. Mais quelque chose qui nous permette en tout cas de casser les barrières, de faire qu'on n'a pas d'excuses en tout cas techniques ou linguistiques pour être dans un village global.
Mais ça arrive déjà parce qu'ils commencent déjà sur Twitter, ils mettent des traductions, des propositions de traduction. C'est un peu dégueu, mais
en bas de Wikipédia, il y a marqué lire dans une autre langue. Typiquement, la norme française veut qu'on n'écrive pas la fin des films dans les résumés Wikipédia et dans les résumés anglais. Il y a tout le film.
Le plot.
C'est une raison pour bouder toute l'Amérique, là. Je vais vous dire, on va couper l'internet américain.
Au contraire,
moi j'ai vu plein de films sans les regarder, du coup, c'est génial ce truc.
S'ils avaient en VO en plus, du coup. J'ai lu des films en VO.
C'est génial.
Non, mais aussi ça.
Fibre pour finir.
Ben, disons que sur un même sujet, Wikipédia, on peut. Enfin, je vais dire un sujet qui est inintéressant, excusez-moi, mais sur certaines descriptions de villes, par exemple.
Ouais, c'est vraiment intéressant.
Placement de produits. Non, mais des villes, oui, on va dire de l'Est de l'Europe.
C'est vraiment très, très
intéressant. Comme il y a des enjeux territoriaux, si vous allez dans la description turque, serbe, bulgare, française ou anglaise, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la version française ou anglaise a été faite quasiment par des Turcs pour embellir le tourisme. Et quand vous allez sur la version turque, vous apercevez qu'il y a 170 Assyries dans la ville, quoi. Ouais. Donc c'est assez intéressant de voir. Il y a des stratégies qui sont pas innocentes derrière.
Donc tu conseillerais aux gens un peu de sortir de leur quartier, d'aller un peu humer ce qui se passe.
S'ils ont le temps, mais le monde est vaste.
Donc Wikipédia est un bon outil pour jauger la géopolitique.
Ah oui, je pense. Oui.
Ah, intéressant, intéressant. Ouais, on ira explorer ça, on sortira de tout ça. Allez, deuxième fac.
F
On remercie notre réalisateur intérim qui a pris au pied levé le rôle de Gislain, qui est parti.
Une roulade.
Radio Marais, très compétent, très compétent. En tout cas, deuxième fac qui nous vient de Curatu, je sais pas, Q-R-A-T-U.
Ouais,
ça fait un peu Ch'toulou, ça fait un peu genre dieu païen.
Kratos.
Donc ce dieu païen nous demande si on peut s'exprimer avec légitimité sur les internets tout en restant anonyme. Entre parenthèses, je pense un peu au pseudonymat dont parlait Sylvain et ces choses comme ça. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être 100% sous anonyme et pourtant avoir une parole ou un avis qui est légitime, qui est crédible ? Est-ce que vous considérez ces gens-là, Sylvain ?
Pour moi, l'anonymat, tu peux pas être crédible.
D'accord.
Parce que tu te mélanges avec les autres, donc tu sais pas qui parle en fait. Par contre, le pseudonyme, ouais, Maître Eolas, tout à fait légitime.
D'accord. Et toi, tu restes sur pseudonymat, mais l'anonymat pur, en tout cas.
Non, t'as pas d'identité en fait, donc tu peux pas donner de la légitimité à quelqu'un qui n'existe pas.
D'accord. T'as un propos qui n'a pas de source, quoi. En fait.
Voilà.
Ok. Fibre.
Je rejoins timidement Sylvain.
Timidement.
Viens, rejoins-moi timidement.
avec la démonstration par l'exemple qui a été Anonymous.
Ouais.
C'est Anonymous, t'es arrivé. Des anonymes s'expriment. Et ça s'est effondré.
C'est la masse qui a fait la légitimité.
Voh, voilà. Oui, mais finalement, les propos ont été confus, les actions ont été confuses, il ne s'est rien passé. Et ça s'est auto-effondré. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple qui démontre que ça peut être possible.
Très bien. Mélissa, est-ce que tu peux donner du crédit aux propos purs?
Non, tu peux donner du crédit à une parole une fois en tant qu'anonyme si tu comprends derrière ce qu'elle te dit que c'est intéressant. Mais non, de fait, la personne...
Bah oui.
À la fin, tu...
Elle s'évapore.
Tu ne sais pas qui c'est.
Disparaît dans un nuage.
Et elle peut dire une grosse connerie. Et t'as toujours peur qu'elle dise une grosse connerie la fois suivante.
D'accord. Daz, imagine d'entendre quelque chose qui paraît intéressant, mais tu ne connais pas la personne ou la personne ne veut pas dire qui elle est. Est-ce que tu creuses quand même ou est-ce que le propos sans la source pour toi perd de son poids, on va dire.
Ouais, en fait, je sais pas si ça m'arriverait même de tomber sur un truc comme ça, quoi. Parce que, effectivement, le pseudonymat pour moi, c'est la norme à la limite et
Mais l'anonymat du coup.
Non, l'anonymat non, mais j'arrive pas en fait à avoir un use case, tu vois.
Un use case. Faut qu'on arrête avec les anglicismes dans cette édition.
Excusez-nous d'être professionnels.
Faut qu'on soit un peu local.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
C'est pour ça.
Faut qu'on soit un petit peu local. Bon, je dévie un peu la question. Si vous êtes sur une source connue, imaginons un site qu'on connaît tous, Le Monde ou The Verge, mais que ce n'est pas signé, et que c'est un article, on va dire, fort en opinion. Et
normalement, le journaliste est-ce que, du coup, cautionne...
Ouais, c'est,
mais imaginons
ça,
qu'il n'y a
là,
pas
c'est,
de...
Là, c'est le média qui...
Imaginons que ce n'est pas signé pour des raisons X ou Y, mais est-ce que du coup...
Il n'y a pas de signature du tout, même pas de pseudo.
Non, il n'y a pas de signature du tout.
Mais il y a eu un...
Mais la signature, c'est le site, quasiment.
Oui, c'est la caution du média, pour moi, ça suffit.
D'accord,
pour
toi, c'est suffisant.
Il y a eu un exemple français récemment de ça. Des médias ont parlé du pirate hacker Ulkan cet été. Ouais. Et Libération a fait un article, notamment, ils avaient peur qu'il y ait eu des représailles contre leur propre famille. Mm-hmm. Ils ont créé une entité virtuelle, un journaliste virtuel, voilà, qui n'existe pas dans Libé, en fait.
Il s'appelait Lisa de la Poste.
Peut-être. Pseudonyme.
N'importe quoi. Mais c'est sur cette petite galette sympathique que tu vas prendre le relais, Sylvain, avec le troisième sujet.
Sujet numéro 3.
Quel internet allons-nous laisser à nos enfants ?
Oh là là.
Mais oui,
j'aime bien quand Sylvain,
bon courage.
Il prend ses deux poings, son costard craque, il est sur son pupitre, la foule est en délire. Mais quel internet allons-nous laisser à nos enfants ?
Attention,
tu prépares déjà 2017.
Dans 5 minutes.
Là, la foule est en folie, en ébullition.
Il prépare 2017. Il y a personne à droite, il y a personne à gauche. Il dit pourquoi pas moi ?
Je file dans le centre. Et oui, surproduction, industrialisation, camarades, course à la vitesse, à la puissance et au rendement. Perte en qualité et en saveur, homogénéité de ce qu'on produit, déresponsabilisation des réseaux de production et de distribution au mépris du consommateur final, baisse des salaires des producteurs, hausse des prix des produits finis, multiplication des intermédiaires commerciaux. Je ne parle pas d'Internet. J'ai emprunté ces éléments de langage à différents écrits écologistes.
À des pubs, ouais.
Non, à des manifestes écolos qui traitent du danger de l'agriculture intensive et de l'industrialisation de la production alimentaire. Et pourtant... Ces mots, ils s'y prêtent à notre internet chéri. Mais oui, regardez dans le rétroviseur de vos vies. Ce nouveau monde, cette terre promise et arable, ces vastes champs, cette utopie numérique. On en a dit du bien du web, on en attendait du bien. L'utopie démocratique, l'agora mondiale, le village mondial, global, fibre, la paix entre les peuples. Et regardez ce qu'on en a fait. La course au clic, maintes fois évoquée dans ce
Palais
podcast.
2017.
Oh, oui.
Palais 2017.
Conséquence de la quantification de l'attention. L'aveugle confiance dans les réseaux sociaux qui nous amène à faire les titres les plus putassiers du monde, que même les gérants des bars à putes de Pigalle trouvent que c'est abusé.
Et les URL qui vont avec.
Les journalistes, blogueurs, twittos, internautes qui pissent du contenu au kilomètre sans se soucier de si c'est digeste pour le récepteur ou si ça a déjà été écrit ou si c'est pas old de 6 mois. Et vous, moi, tous, incapables d'en louper une miette, gavés comme des oies consentantes, gavés de farines indigestes, prêts à se faire ouvrir le bide à Noël au nom de la compétitivité. Parce que oui, c'est cette économie capitaliste, camarades, cette mise en compétition totale et constante qui nous abrutit et détruit un écosystème qui avait tout pour devenir le havre de paix dont nous rêvions tous. Zion est devenu Babylone, man. T'as pas les feuilles à rouler. Alors que faire?
Tu fais bien l'imitation du mec du Sud-Ouest, quand même.
Attends, je fais une deuxième imitation à la suite, là.
Putain, ce répertoire, cette année.
Alors que faire, Sensei Sylvain, pour retrouver année. L'harmonie entre les portes du bien et les portes du mal?
C'est
le
Fleur Pellerin. C'est Fleur Pellerin.
Non, c'est Karate Kid.
Eh bien, je vous propose un mode d'emploi pour un internet raisonné, puisque vous êtes des internautes raisonnables. Donc, comme l'agriculture raisonnée. D'abord, petit 1. C'est un article à liste, en fait.
Je suis présent.
Petit 1, consommer des produits de saison. Et oui, ce qui veut dire d'arrêter de lire les marronniers. Elle est pas mal. Hein. Non, ce contenu sur la rentrée n'est pas nouveau. Il était déjà là l'année dernière, à la même époque. Sauf s'il a un angle intéressant, bien sûr. Non, ne clique pas sur ce lien vers un chat qui a un bonnet de Père Noël juste parce qu'on est le 24 décembre. Contente-toi de regarder la preview Facebook. De toute façon, c'est la même chose après avoir cliqué. Petit 2, stop au gaspillage. Des enfants meurent d'Internet en Afrique. Réfléchis à deux fois avant de cliquer sur un lien Facebook. As-tu vraiment besoin de le lire ? Cela va-t-il vraiment changer ta vie de savoir ce qu'il s'est passé pendant que cette jeune fille laissait sa webcam allumée ?
Curieux mais pas voyeuriste.
Curieux mais pas voyeur. Petit 3, régime anti-malbouffe. Si plus personne ne va au McDo, ils seront obligés de fermer. Ça fonctionne pareil avec Minute Buzz. Moins tu cliques sur un lien dans ton feed Facebook, plus il se fera rare. C'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. C'est comme au pays imaginaire, si tu arrêtes d'y croire, Peter... Il disparaît. Spécial dédicace
à Maxime Barbier.
À Robin Williams.
Ah, ouais, je pense à Maxime Barbier, le Peter Pan du buzz.
Le Peter Pan du buzz. Syndrome Peter Pan. Petit 4, directement du producteur au consommateur. On privilégie les circuits courts et l'artisanat. Si tu veux de l'info, tu vas sur des sites où il y a de vrais journalistes. Si tu veux acheter un jeu, pourquoi ne pas aller voir des mecs qui jouaient sur Twitch plutôt que de lire des reviews pourries sur des sites de jeux vidéo.
Sur Game Quoi ? Sur
Game... Il allait donner un nom.
Si tu es passionné par l'espace, suis la NASA sur Instagram. Sérieux, hein,
c'est vrai, ouais, c'est génial.
Apprends à discerner les différents modèles économiques, privilégie ceux qui sont un petit peu plus alternatifs que le modèle publicitaire classique. Oui, c'est moi qui dis ça.
Oui, c'est ça que j'allais dire.
Et oui, et oui. N'hésite pas à consommer de l'information payante.
C'est toi qui dis ça. Non,
mais c'est toi qui dis ça.
Mais oui, mais oui. Moi, enfin bref. Petit 5, surtout, diminuons la pollution. Votre capacité à déblatérer sur vos vies et vous indigner sur tout, c'est l'effet de serre 2.0.
Oh là
là. Le clavier
là.
Est un outil et on n'est pas tous des bons artisans. Donc laissez aux gens qui savaient écrire le loisir de le faire. Smiley complice. Petit 6, et ce sera ma dernière proposition pour être élu en 2017 à la présidence de l'Internet. La création d'un label Max Avelar décerné à un contenu par les internautes. Le label Loïc Lemeur. Le label fait maison de Maxime Barbier. Attention, ce n'est pas tous les internautes qui vont décevoir ce label puisque vous êtes pour la plupart des buses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là. Non, ce serait une sorte d'équipe de guide Michelin qui sillonnerait le web en van pour coller des étoiles au contenu et faire des critiques des articles. Du genre, belle attaque en second paragraphe. J'ai bien aimé le dressage, mais je me suis lassé du goût un petit peu consensuel sur la fin. Par contre, la conclusion relève le tout, donc je mets 2 étoiles. Et là, on verra si McDo vient encore nous refiler ses Big Mac frelatés. Alors, chers internautes, chers chroniqueurs, donnons-nous tous la main et réfléchissons à notre production-consommation des contenus sur le réseau. Désormais, j'aimerais que vous vous posiez cette question avant de cliquer sur un lien ou de publier un tweet. Quel internet vais-je laisser à mes enfants ?
Votez pour lui !
Pour une écologie du web.
Hashtag Palais 2017. Palais 2017 ? Sarah Palais.
Palais écologie.
Palais écologie. Mais c'est beau, dis donc, ce que tu nous dis. En gros, on est en train de faire un énorme dépotoir de contenu et d'attention qu'on va laisser à nos enfants.
Internet devient une décharge.
Ouais. C'est-à-dire, c'est...
C'est mignon des enfants qui jouent sur une décharge.
C'est vrai. Ouais. Ça s'appelle les Roumains.
Tant de racisme.
Vous attendez direct pour ça.
Entre les raccourcis de tank de fibres et les dérapages de Sylvain.
C'est du vécu. J'ai traîné avec des Roumains dans des décharges.
Il a un bon ami roumain.
Comme dirait Grégory Pouilly, moi je viens de la cité, ok.
C'est une belle rentrée qu'on fait. Je pense que vous avez bien révisé vos leçons, vous êtes en pleine forme.
On n'ira jamais sur un plateau télé ni dans une radio.
Bon alors, plus sérieusement, Sylvain, il voudrait qu'on ait un internet qui soit moins un dépotoir ou une chambre d'adolescent que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pollution de contenu et une attention de mauvaise qualité. Hein. C'est pas du tout biodégradable tout ça, c'est pas du tout sustainable, c'est pas du tout bio.
Exactement.
Ça fait combien de temps qu'on a Internet?
On va dire...
10 ans?
Ouais, 15. Plus, 15.
Ça fait combien de temps que la télévision existe?
40, 45 ans.
Voilà, donc en plus, 45, 50, voire 60 ans, on a toujours des programmes de merde à la télé.
Ah non, mais là, c'est parce que tu dis qu'Internet est un média. Ce qui est pas vrai.
Attention.
Ah. Wow.
J'ai pas compris la phrase.
Non, c'est vrai. Pour Sylvain, la télé est un média, on va dire, à sens unique, avec un produit... Très peu de producteurs de contenu pour beaucoup.
Internet a un réseau avec plein de médias dessus.
Oui, mais tu veux qu'il y ait des prescripteurs qui disent quoi lire, comment le lire, etc.
C'est un des conseils.
C'est un des conseils.
Non, mais il faut dire aussi aux gens, soyez responsables. Non, mais ce que dit aussi Sylvain, c'est soyez responsables. Cliquez moins, triez les déchets.
Oui, mais ça, c'est un vœu pieux. C'est ce qu'on dit et redit. C'est le rêve humide de Mélissa.
Non, parce qu'il nous dit aussi, mettez des petites étoiles sur les contenus. Donc, il nous refait faire des commentaires différemment.
En fait,
quoi.
Mettre des étoiles sur un contenu, c'est un peu minute
tout le buzz. Hein. Tout le monde n'est pas autorisé à mettre des étoiles. C'est ça qui
non,
est
mais
important.
C'est hyper snob. Ah, donc, alors que c'est pas du tout le principe de.
Donc, c'est un télérama.
Est-ce que tu penses, Mélissa, que le programme de Palès, finalement, se trahit lui-même?
Ah bah oui, de toute façon, le ton même de son programme était un peu genre, bon, j'y crois pas trop, mais peut-être mais penser d'être
prévu. C'est de la politique, hein, bon.
C'est du sérieux.
Non mais tu veux dire,
est-ce qu'il y a des bonnes idées, mais est-ce qu'il y a des bonnes idées là-dedans?
Bah oui, elle les a déjà
oui,
dit.
Oui, bien sûr.
Non, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat? Est-ce que vous avez pas l'impression de perdre votre temps sur
Internet?
Non
mais bien sûr, j'ai cliqué sur 1000 liens où je me suis dit, pourquoi je lis ce truc? Ça me sert à rien, j'ai perdu
du temps.
Mais les dépotoirs, des bouts de dépotoirs, il y a des bons bouts de dépotoirs et si on fait un truc trop safe, t'auras que des sites de médias propres avec des trucs.
Tu penses que
sinon,
en fait, tu promets un Gattaca du contenu?
Voilà,
quoi.
Ça va être un peu trop propre.
Alors,
fibre.
Et j'ai peur que on ait
fibre, fibre à lever la main quand fibre lève la main, c'est qu'il
fibre
va taper sur la table.
Est-ce que
la
table est bien fixée?
Déjà, au temps du Sénat romain, Cicéron disait au tempora homores, c'est-à-dire le monde est en décadence, ok? Et en 1999.
Ça veut vraiment dire ça?
En 1999.
Autre temps, autre mort.
En 1999.
Ça veut pas exactement dire
si,
ça.
Si, c'est ça, mais peu importe. En 1999, Sylvain avait 6 ans, il ne pouvait pas le savoir, mais il y avait des vieux déjà qui disaient. Mais quel internet allons-nous laisser à nos enfants? Tous ces gens qui envoient des emails avec des pièces jointes de 1 méga, tous ces gens qui mettent du commentaire dans leur code HTML et qui surchargent l'internet, qui encombrent les réseaux, tous ces serveurs, toutes ces pages web qui sont sur serveurs qui vont disparaître à jamais parce que vous ne les sauvegardez pas. Quel internet allons-nous laisser? Les mecs étaient hyper affolés.
C'est vachement bien, j'endors, me son. Ouais.
Et aujourd'hui, en fait, tous ces problèmes du web 1.0 sont complètement résolus, c'est-à-dire que les pièces jointes, maintenant on envoie des pièces jointes de 20 mégas et on rigole, où on les stocke sur le cloud.
Sur les aspects techniques.
Oui, mais résolu par la technique. Moi, je parle pas d'encombrement de bande passante. Là.
Mais parce que tu es dans des problématiques 2.0 de gestion de contenu.
Et on a trop dit 2.0.
on est tous consultants en architecture de réseau.
Moi, je revendique. Il y a vraiment eu un moment où on était la page fixe et le web dynamique. Je veux dire, un moment où on était concerné par le contenu statique et maintenant on est sur des flux. Donc il y a quand même il y a eu un 1.0, un 2.0.
Mais est-ce que ce flux dont parle Sylvain, qui fait que tout le monde, pour surnager dans ce flux, fait de plus en plus de bruit et on se retrouve dans une sorte de foire à l'empoigne où chacun augmente à chaque fois un petit peu le volume de sa sono, où à la fin, effectivement, on n'entend plus rien. On hurle dans tous les sens, on met des hôtesses à poil pour faire enfin, on a des moyens putassés pour avoir l'attention. Et en même temps, nous, on en a plus, le récepteur n'en a plus.
Il y a un darwinisme culturel qui fait que ce qui n'est pas bien, ça va disparaître. Et d'ailleurs, en fait, la chronique de Sylvain, elle n'est pas innocente. La photo de ce petit chat va vous redonner foi en l'humanité. Ces articles, je pense qu'ils accrochent de moins en moins parce qu'on les a trop vus.
Il y a de plus en plus de quiz sur BuzzFeed, mec.
Oui, mais peut-être qu'il y a de moins en moins de gens qui vont sur BuzzFeed.
Vous avez tous les deux raisons parce que c'est vrai que ces accroches fonctionnent moins et puis Facebook est en train de les limiter. Et puis d'un autre côté, effectivement, on voit que des accroches putassières pour du contenu
on est passé des listes aux nouvelles quiz armes. À pouvoir site
ouais. Et moi personnellement après, tous les matins je regarde radurls.com où c'est les sites les URL de news les plus partagés sur les réseaux sociaux ouais. Et bien les 30 premières il n'y a aucun titre à la BuzzFeed.
D'accord, voilà. Bon, on va y revoir. Daz, tu voulais dire quelque chose?
Non, oui, que en fait là, on parlait du bon goût, du mauvais goût, des choses bien, mais en fait c'est notre perception à nous et bah, vous n'êtes pas la norme. Hein.
Ah bon?
Ben oui, ça se trouve
ouais,
le petit.
Ouais, merde, ça met tout en question.
Mais
j'ai pas du tout pensé.
Il a fait un programme pour 4
personnes. Est-ce que t'as pensé à retourner le truc et te dire, en fait, finalement, est-ce que ce que moi j'aime, c'est ce que les autres aiment aussi? Enfin, c'est ce que le plus grand nombre aime. On sait très bien que si les programmes merdiques fonctionnent, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui les regardent.
Non, c'est évidemment que les Parisiens qui regardent ça de manière ironique. Enfin.
Ah, c'est vrai, il y a ça aussi.
C'est une marque
de licence. En fait, l'audience de BuzzFeed, c'était que des mecs avec du sarcasme. Et
non, mais c'est les mecs qui ont des PhD.
Mais au-delà
et qui,
de ça,
est-ce, dit ça pour PhD.
Est-ce que je reviens quand même sur cette chronique de Sylvain qui, je trouve, m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'à un moment, on est en train de tout envoyer valdinguer, à hurler, à ne plus rien entendre, et que effectivement, les gens qui vont débarquer sur Internet, ils vont voir que de base, c'est un bordel de fou, et qu'à un moment, il faudra une énorme purge. Un peu comme quand il y a trop de bruit dans une soirée, puis un voisin il commence à taper sur le truc, il fait oh on s'était deux secondes, on arrête la musique, on attend un peu.
Bien non, on met la musique, et là il y a les flics qui arrivent.
Non mais est-ce qu'à un moment il y aura une période de un crack, un truc où à un moment tout
burn-out, où les mecs jeter leurs ordi par les fenêtres.
Non mais il y aura trop de serveurs partout, il y aura.
Non mais c'est pas ça, c'est attends, excuse-moi. J'ai une pure analogie.
Pure analogie.
Je vais comparer Internet à l'autoroute.
De l'information.
De l'information.
Donc c'est pas parce
que non mais fais doucement parce que je vais la noter.
Tu la notes parce qu'elle est complètement inédite. Mais je veux dire là ça s'applique complètement. C'est pas parce qu'il y a des super bouchons autour du viaduc de Millau que le mec qui rentre sur l'autoroute du côté de Lille se dit waouh putain je vais pas y aller parce qu'il le sait même pas parce qu'il s'en fout. Tu fais avec ce que t'as devant toi.
Il y a radiotrafic.
D'accord.
Oui mais ça marche pas ça. Non mais voilà.
Mais c'était sur une autoroute. C'est pas une autoroute globale. Une autoroute mondiale.
Par définition,
on est sur la même voie.
Non, mais si un jour on arrive à un moment où il y a des bouchons partout, on peut même plus sortir de chez nous. Tu vois.
Ah bah voilà. Ça s'appelle le périphérique, d'accord, et on continue à l'emprunter. Voilà.
Ok.
Voilà.
Mélissa, voilà. Tu voulais dire quelque chose avant que Daz te coupe.
C'est plus ce que je voulais dire.
Ah là là, mais quel salaud, c'est Daz. Tu vois, ça, le problème, tout le monde parle en même temps, tout le monde produit du contenu, plus personne.
Moi, la phase de fibre que j'ai bien aimée, où effectivement, la technique nous a permis de partager plus de contenu alors que ça nous faisait peur en termes de quantité. Je pense que là, le contenu fait bouchon pas sur les câbles, mais dans notre cerveau.
Donc, qu'est-ce que la prochaine étape? C'est pas justement augmenter notre cerveau.
Oh, visionnaire.
Intelligence artificielle.
Il faudrait aller voir des gens qui connaissent le sujet. Ça et les taxis marseillais, par exemple.
Ça et les taxis marseillais.
Et les dauphins.
Top. Les dauphins, c'est très bien. On s'arrête sur les dauphins. Merci Sylvain et on passe à la troisième fac.
FAQ.
Allez, troisième question posée par Léo Passion Léo.
Salut Passion Léo.
Non, on n'est pas. Allez le voir. Donc c'est @LéoPassionLéo comme ça s'écrit. Et il a une profile pic que je vous fais tourner qui est c'est très
belle. Ah, elle est très très belle. Hein.
On dirait
jolie. Hein.
On dirait fibre tigre.
On dirait un petit chat dans un champ.
Fibre tigre. Ouais, avec à côté poney en liberté.
Un cosplay de fibre tigre.
Alors Léo Passion Léo nous dit, est-ce que être cool sur Internet, c'est avoir un max de clés bêta ou d'accès à des bêta? C'est pas bête ce qu'il dit. Parce qu'on voit que depuis quelques temps, des gens sont là genre « Ah, oh, incroyable, j'ai accès à la bêta de Hearthstone ou j'ai accès à la bêta de cette nouvelle start-up, machin. »
Oui, mais ça, en fait...
Est-ce qu'on peut mesurer le coût, le nombre d'accès bêta que tu as, que tu redistribues?
Accès c'est pas bêta du cool. De jeux vidéo, c'est ça?
Non, accès bêta cool. En général, je pense, des services, des
mais
choses
non, c'est
ça.
De la... Ça, pour moi, c'est de la promotion déguisée, quoi. Ouais. Les mecs qui ont des accès bêta, c'est juste des gens qui sont chargés de promouvoir sur les réseaux sociaux le jeu en question.
Ah, t'as aussi des gens qui se la pètent pas mal quand ils ont
accès.
Non, mais t'as aussi des gens qui se la pètent assez d'avoir des accès à certains jeux, certaines startups, tout le monde dit, ah, je peux en avoir, je machin, etc.
Non. Oui, mais c'est des gens qui sont approchés ou connaissent les développeurs ou l'équipe qui sort le truc. En général, c'est ça, c'est des mecs qui
c'est
sont.
C'est pas des VIP, tu penses pas que les mecs là.
Bah, pour moi, c'est du
donnant-donnant.
Pour moi, c'est du plan RP classique, quoi.
Ouais, voilà,
c'est tu contactes des influenceurs, comme on dit dans les agences de pub.
Ça veut dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est-ce qu'ils sont crédibles, ces gens-là? Enfin, est-ce qu'ils ont une sorte de crédibilité de street cred sur Internet quand ils sont toujours invités à avoir accès avant tout le monde à des trucs?
Bon, non.
Daz, non, mais Sylvain.
C'est très compliqué comme question. C'est. Ouais. Non, mais pas en question de modèle économique qui me fait gagner ma vie, s'il te plaît. Non, je rigole. Non, c'est faux. Non, mais bien sûr. Enfin, ça dépend. Il y en a qui sont très légitimes pour être invités à des événements, qui vont faire des super articles sur ce jeu vidéo qui va sortir. Et puis, t'as des blogueuses mode.
Hey. Je pense qu'on a tapé dans tous les trucs les plus bas depuis le début de cette émission de rentrée.
C'est qu'il y a des blogueuses mode intelligentes.
Non, c'était une vanne, bien sûr.
Mélissa. Mais ça, est-ce qu'aujourd'hui, être cool sur Internet, c'est de pouvoir te la péter en disant, ah, j'ai accès à tel truc, on est en première.
Mais
l'alpha technique.
Il y a quand même des bêtas privés ou des alphas ou tout ce que vous voulez, auxquels on donne l'accès à des gens dont on attend les feedbacks.
Ouais.
Oui.
Donc ça, c'est pas le plan RP de Sylvain, c'est juste
c'est
un site qui, voilà, Mais à ce moment-là, tu es cool vu que tu es considéré comme quelqu'un qui connaît tellement bien l'internet que tu sauras faire des retours constructifs et intéressants.
Donc pour toi, il y a comme une phase, il y a aussi une partie qui est vraiment crédible. Ouais. Les gens qui sont là pour dire j'ai accès à tel truc.
Ça dépend en fait comment c'est vu. Si c'est juste on va prendre des influenceurs, c'est relou. Mais il y a des sites qui donnent des accès à leur bêta à des gens.
Ils le disent sur Twitter, c'est que c'est des connards.
Mais oui.
Oui, bien sûr.
Hey les gars, j'ai accès à la bêta.
Et pas vous.
Ouais. Pas vous.
Arrêtez, je l'ai fait. Fibre.
Pour moi, c'est mort. Et on va citer quelque chose qu'on a déjà cité. Pour moi, c'est mort avec Google+. Souvenez-vous des invitations Google+. Tout le monde en avait 50 et la grosse blague sur Twitter, c'était dire, genre 2 ans après, j'ai encore des invités de Google+, parce que tout le monde était invité à la bêta de Google+, tout le monde a testé Google+, et on n'en pouvait plus, et ça a perdu son sens.
Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit j'ai accès à Twitter Gold, j'ai 10 invités,
Il y a deux types de bêta. Il y a les mecs qui sont obligés de bosser, et c'est un travail de tâcheron, c'est super chiant de bêta tester.
Ouais.
Et franchement, tu t'en vantes pas parce que c'est mal payé ou pas payé, tu fais ça pour et ça te fait chier,
non,
ça te sort par les yeux.
Léo Passion Léo nous parle un peu d'un côté social. Et d'un côté, j'ai mon passe pour entrer dans la boîte de nuit ou la soirée la plus cool. Sauf que là, on parle de start-up et de jeux vidéo.
C'est une opération de com. Les bêtas de Destiny, je crois.
Je trouve que c'est excitant d'avoir accès à un truc en avant-première.
D'accord. Bon,
oui, surtout de travailler gratuit à le débugger, quoi.
Ouais, non, mais moi, j'envoie jamais de feedback, moi.
Ah,
il envoie juste le tweet pour dire qu'il y est.
C'est pas vous.
Bon, Léo, passion Léo, on t'enverra
une clé bêta de 404
Premium.
De 404 Premium que vous aurez après. Allez, quatrième et dernier sujet. Avec Monsieur Fibrotique, mais je crois qu'on n'a pas le jingle.
Non, c'est pas moi en plus.
Ah, avec Mélissa, oh là là. Mélissa, mais je crois qu'on n'a pas de jingle.
On n'a pas de jingle pour moi ?
Non.
Attends, on va le faire. Mais qui peut imiter Angie le mieux possible ?
Sujet numéro 4.
Ah, vas-y, Daz.
Je ne sais pas le titre.
Non, c'est sujet numéro 4.
Internet est-il misogyne ?
Ouais. Alors, normalement, sur Studio 404, on a toujours des titres en deux parties pour que Angie et Al puissent s'amuser. Donc, normalement, c'est. Internet n'a pas de sexe, mais est-il misogyne?
C'est bon, je crois.
On a le jingle?
Voilà.
Sujet numéro 4.
Internet n'a pas de sexe, mais serait-il misogyne?
Misogyne. C'est pas bon.
Bon, tu l'es ton jingle.
Merci.
Tout ça pour un sujet léger.
Oui. Hein, un sujet très léger.
Un sujet de niche qui n'intéresse pas grand monde ou pas grand monde n'a des choses à dire sur le sujet.
Et qui va faire aucune vague.
Voilà.
Hashtag... aucune vague et tout le monde s'est repassé le bébé comme ça à 404. Genre, voilà. Ah non, moi je veux pas trop le faire.
Hashtag féminims, hashtag slutchimi, hashtag bigoterie 2.0.
C'est qui prend
le sujet suicide social, on pourrait dire.
Hashtag suicide social.
J'ai décidé de me suicider socialement. Non, pas du tout.
Comme à chaque émission sur 404, je tiens à dire.
C'est vrai.
Tu veux te suicider professionnellement, tu veux.
Socialement.
Mais ça, toi qui es une femme, mais on t'accueille, on t'accepte quand même
femme,
dans l'émission. Parle-nous de l'égalité et tout ça. Bon, bref.
Alors, donc, on va s'attaquer à une affaire un peu ardue.
Oui.
Vous avez forcément entendu ce prénom et ce nom, Zoé Quinn, ce dernier mois.
Oui.
Tout a commencé, donc on parle un peu de l'affaire Zoé Quinn. Mm-hmm. Et personne ne voulait en parler ici. Zoé Quinn, c'est une créatrice de jeux vidéo, de jeux indé notamment. Alors je précise que je ne joue absolument pas aux jeux vidéo, donc ne
ça
me jugez
légitime.
Pas là-dessus.
Non, ça permet d'avoir un détachement par rapport.
Je ne suis pas journaliste jeux vidéo, je ne prétends pas l'être, je ne veux pas
ça
l'être.
Ça tombe bien parce que de toute façon l'affaire n'a pas grand-chose
voilà,
à voir.
Il ne s'agira même pas de parler de conflits d'intérêts dans le milieu, alors qu'on aurait pu croire que c'était là-dessus, mais en fait non.
Alors Zoé Quinn.
Zoé Quinn, donc créatrice de jeux vidéo. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, son ex a décidé le 16 août dernier de balancer plein de tas de merde sur un blog à propos d'elle.
Donc il a fait un grand déballage.
Il était un peu vénère. Il était un peu vénère le garçon.
Un peu beaucoup.
Donc il a dit plein de choses sur elle. En gros que c'était une grosse menteuse et qu'elle n'était pas du tout pro et qu'elle n'avait pas de déontologie, machin. Voilà. Non.
Pas tout de suite. Pas tout de suite.
Il y a un gros débat. Il est encore en cours sur Internet. Si tu veux le suivre, tu peux prendre des popcorn. Il y en a plein.
Mélissa l'est fait. Donc cet ex-là fait se venge en déballant.
C'est ça.
À coup de photos et aussi de confidences.
Jusque-là, ça arrive. On a déjà vu plein de cas comme ça.
C'est laid, mais c'est dans le domaine encore de la dispute de couple qui a mal tourné.
Mais je dirais que c'est quand même devenu une affaire. Mm-hmm. Cela dit, avant de prendre ce sujet ardu, je vous ai tous posé la question. Alors, vous en pensez quoi, les mecs? Voici vos réponses. Donc là, vous allez considérer que je leak.
Parce que c'est du
leak. Fibre m'a dit, c'est une histoire anecdotique, vengeance d'un ex jaloux monté inutilement par ennui. C'est un peu comme la Première Guerre mondiale, tout le monde avait envie de se mettre sur la gueule sur le féminisme. Les gamers ont envie d'exister, c'est con, on l'a vu avec l'affaire du Grand Journal. Et hop, un Serbe arrive et assassine l'archiduc et bam, guerre mondiale. Voilà.
Ça, c'est
le résumé des faits par Fibre.
Sylvain, ça c'est mon Fibre.
Attendez, Sylvain, c'est pas mal aussi. Non mais ça représente très bien cette équipe. Pour moi, c'est du fait divers pseudo people. Pas le temps pour ça. Sylvain 2017 donc. Par contre, j'aime cette histoire parce que le diagramme de Venn entre jeux vidéo et journalisme est un vrai petit laboratoire sur ce qui se fait de pire en déontologie et ça m'excite.
Ça m'excite.
L'âme plus consensuelle. Oui. Sur Zoé, je n'ai pas assez approfondi sur sa vie privée, mais le déballage et la curée, c'est une honte.
Oui, mais je suis toujours.
Alors que bon, hein.
En gros, il n'avait pas trop creusé l'affaire, il savait pas trop quoi dire, mais il voyait qu'il y avait malaise.
Je voulais pas juger justement une nana sur les propos de son petit ami, juste. Voilà. Daz. Bravo. Mais que nous a dit Daz?
Que nous a dit Daz? Alors, Zoé Quinn, il y a le cas du trompé super vénère, certes, mais il y a aussi l'hypocrisie totale de la meuf qui se pose en parangon de l'honnêteté dans le couple et se fait tringler par le tout venant en mentant honteusement.
Oui, je l'ai dit.
Par contre, en effet, c'est super banal et n'a à mon sens aucun rapport avec le jeu vidéo. Ça, je te suis sur cette histoire.
Ah.
Les States, donc les États-Unis, sont toujours traumatisés par les Doritos Gate et se lancent dans une chasse aux sorcières dès que des collusions presse jeux vidéo acteurs du milieu peuvent sortir.
Eh oui.
Parce donc en gros, c'était un peu rien, quoi, cette histoire.
Non mais surtout, ce qu'on disait, c'est que Zoé Quinn, il y a eu un débat de son petit ami, mais que ça a complètement débordé de cette sphère purement privée de querelle entre ex.
Oui, mais on le saura après.
Donc au-delà de Daz, qui remet tout de suite en cause la meuf parce qu'elle a une sexualité qui est la sienne.
Parce que je la prends comme un mec, moi justement, je fais pas de différence. Donc si elle a fait n'importe quoi, elle a fait n'importe quoi.
Non mais avant de parler de l'histoire, tu parles de sa sexualité.
Arrêtons
pourquoi
un peu l'angélisme des femmes là-haut, ça suffit. Merde. Vous êtes aussi dégueulasses que les hommes. Oh,
non mais bien sûr, mais tu parles tout de suite de ça au lieu de parler de tous les mecs qui
parlent. Parce que moi j'ai lu tout le blog du mec et c'est l'empathie.
Il y a 400 000 mots quand même.
L'empathie.
Donc en gros, on s'en fout du débile de l'ex, enfin c'est un con quoi. Mais moi ce qui me fait chier, c'est ce qui est arrivé après.
Donc son ex, c'est la partie émergée de l'iceberg.
C'est ça, lui, ça arrive. C'est dégueulasse, c'est con, ça arrive, mais après, il s'est passé toute l'enquête sur la meuf sans qu'elle ait rien demandé.
Oui, là, c'est pas normal, je suis
d'accord. Et là, t'as tout l'internet qui a débarqué, qui a fait genre.
Donc qu'est-ce qu'on a enquêté sur cette nana? Qu'est-ce qu'elle est, cette Zoé Quinn, à part que son ex n'était pas content?
Ils ont voulu enquêter sur est-ce qu'elle a couché pour avoir des meilleures notes pour ses jeux vidéo, machin. Or, le journaliste de Kotaku, avec qui il l'accuse d'avoir couché, il a jamais écrit sur son jeu.
Sauf que
il l'a interviewé une fois.
Sauf que les mots et les phrases étaient déjà restés. En gros, c'est même si c'était pas avéré, c'était du coup resté dans sur internet, c'est elle a couché pour avoir des meilleures notes.
C'est ça. Mais en fait, c'est pas le vrai du faux, on trouvera jamais, ça se trouve elle a couché, enfin genre, on n'en sait rien. Le truc c'est que c'est relou parce qu'en fait tout ce que ça a créé, c'est un internet pas chouette quoi. Et en fait, elle est pas la seule à avoir vécu ça et pas la seule meuf. Il y a une autre nana qui a un podcast sur qui analyse, disons, avec une vision les féministe props. De les jeux vidéo.
Ouais,
et cette meuf, elle a été obligée de déménager juste parce qu'elle avait eu le malheur de faire une émission hyper fouillée sur comment les meufs étaient représentées dans le jeu vidéo. Ouais. Ce qui était pas, genre, elle traitait pas tous les mecs de connards, elle disait pas que les gamers étaient des connards, elle disait
les
juste,
gamers sont des connards.
Dans ce jeu vidéo, les meufs, savoir. Elles ressemblent à, enfin, elles ont aucun rôle.
Oui, elle avait,
ou alors,
elle avait genre, une analyse critique de la chose.
Voilà, et la meuf a été obligée de déménager parce que les mecs l'ont, ils ont fait une enquête sur elle en disant, non, mais d'où la meuf, elle parle sur les rôles de meufs dans les jeux vidéo.
Alors c'est une fille, attends.
Ils l'ont tellement harcelé que la meuf a vraiment déménagé.
Donc en gros,
à
les mecs
quel moment...
étaient vénères de se faire traiter leur passion misogyne, donc ils ont agi comme des misogynes.
C'est ça.
Magnifique.
Et donc après, t'as des billets comme sur Gameblog par exemple, site français que je vais
Gameblog, je connais pas
Gameblog
français
un petit site qui fait honneur à notre pays. Alors déjà, donc c'était un papier sur Zoé Quinn, l'illustration c'était un vagin avec un pénis et donc le pénis
est gradué
en fonction de la profondeur de la pénétration. La note augmentait du jeu vidéo censément.
C'est Gameblog qui a fait cette illustration.
Magnifique illustration. Donc c'était une illustre en anglais, donc j'imagine qu'ils l'ont juste intégrée pour illustrer.
Ah donc
le
c'est
papier.
Pas Gameblog, c'est pas de leur faute.
Non mais attends.
Au-delà du sens qui est dégueulasse, je trouve ça assez créatif. Hein.
Non mais c'est vrai.
Mais t'as tout compris.
Et la bite à John Hamm, tu vas te calmer tout de suite.
Plutôt, laissez-moi vous lire ce passage.
Alors là, c'est l'article de Gameblog sur l'affaire Zoé Quinn. On répète.
Quinn est aussi une acharnée de la cause féministe. Défendant avec ardeur des positions sur ce sujet, et croyez-le ou non, mais c'est aussi une amatrice de porno softcore. Elle ne tourne pas de films et de sexe. Elle a été vue sur un site porno payant où elle possède un profil et des photos d'elle, dont certaines accessibles à tous, nues, dévoilant son vagin et ses seins dans des positions assez aguicheuses.
Donc
les mecs, à quel moment ça justifie quoi que ce soit?
Comme la
et à quel moment tu peux pas être
internet.
Féministe et aimer le porno?
Mais à quel moment c'est sur un site de jeux vidéo surtout?
À quel moment tu vois Gameblog quoi?
Bon, ça c'est l'autre débat. Mais non, mais là où c'est important, c'est que Gameblog ou pas Gameblog, ce que Milsa là, t'as raison, c'est que c'est posé sur internet. Donc ça.
C'est là quoi. Et la meuf, on retrouvera, tu la googles, maintenant tu vas retrouver ce genre de truc et tous les papiers et tous les trucs de médias très sérieux qui font des liens vers ces blogs ou qui citent ces blogs et enfin, on saura, il y a des énormes pans de leur vie privée qui sont là, dispo. Et juste, ça me saoule de cette vision de l'internet, genre, on va faire une enquête juste pour s'amuser.
Juste parce que c'est une nana aussi, parce qu'il y a
sûrement autant d'enquêtes.
Et juste parce qu'elle a eu le malheur de critiquer un truc dans un jeu vidéo. Enfin, je veux dire, à quel moment c'est ok de faire déménager une meuf?
Ouais.
Donc cette ambiance pourrie, c'est pas
là,
tant
c'est pas Zoé Quinn, hein, c'est
non mais Sarkisian. C'est Zoé Quinn ou Anita,
ouais, okay.
Je sais plus son nom Sarkisian. De famille parce qu'il est assez Sarkisian. Exactement. Ça crée juste ça et en plus vraiment ces derniers mois ça a touché beaucoup de nanas donc on se dit est-ce qu'il y a que des meufs? Moi j'aimerais bien savoir s'il y a des cas de mecs qui sont aussi critiqués, aussi obligés
jamais,
de faire ça.
Jamais sur le physique ou des choses comme ça. Il y a de toute façon des clashs tout le temps mais c'est vrai
peut-être
que là
que les mecs ont plus d'intégrité.
Si non mais
je veux pas dire qu'internet est misogyne mais il y a ce truc un peu foireux qui plane et c'est relou.
Il y a des mecs qui sont fait broyer aussi. Attends.
Non mais la question alors.
Ouais mais là ça crée des
internet est misogyne. C'est vrai que le débat en général quand les mecs se font broyer on ne vient jamais attaquer sur des choses privées ou intimes, on les attaque sur leurs compétences ou sur des choses comme ça.
Enfin, cela étant, notre président depuis hier est attaqué sur des sujets plutôt intimes.
Il ramasse un petit peu.
Oui, mais on lui dit pas t'es une grosse salope par exemple, notre président.
pourtant,
qu'est-ce qu'il a couché à droite à gauche?
Quelque tard.
Non, mais du coup, alors voilà, ce que nous dit Mélissa, c'est que à travers ces deux ou trois cas, on revient aussi sur le Celeb Gate parce que ça a débordé là-dessus aussi. On revient aussi sur ce que disait Sylvain, il rêvait d'un internet propre et beau, puis on laisse un internet peut-être qui est un peu
et le village global, vous avez vu le fil rouge ou pas?
Ouais, ouais, un peu trop. On parle de gender, de gentrisme, de misogynie, de plein de choses. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a, comme dit Mélissa aujourd'hui, le débat autour de quand il y a des débats autour de contenu ou de femmes, de contenu créé par des femmes, le
sûr,
débat tourne à un moment surtout autour du fait que la nana, c'est une nana.
Mais tout le temps.
Ouais. Daz. Ouais,
évidemment ça. Enfin, l'affaire Zoé Quinn, c'est justement dégueulasse pour ça principalement. Parce que c'est juste une histoire de coucherie et que là, on remet en cause tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est, etc.
Non, mais...
Même si c'est une coquine.
En fait,
polissonne.
La population qui a fait ça, c'est une population identifiée qui s'auto-appelle les gamers.
Ouais.
Et les gamers, j'ai dit que c'était des cons. En fait, c'est des consommateurs. Donc en fait, c'est...
Comment il se rattrape, il a peur d'être la victime d'une enquête de ces mêmes gens.
Non,
et d'avoir à déménager dans deux jours.
Ça peut arriver, mais en fait, ce sont des gens qui, pour s'identifier, n'ont qu'une seule chose, c'est-à-dire ils jouent les jeux vidéo comme tout le monde, quoi. Et qu'ils ont acheté quelque chose, ils l'ont piraté. Ouais, et donc, en fait, ce sont des gens qui, comme ils n'ont rien d'autre pour s'identifier, sont pas, par exemple, des ingénieurs réseau dont on parlait tout à l'heure. On va dire, ce sont des gens qui n'ont rien d'autre à faire que
de redescendre ton tank là, parce que t'es en train
j'ai l'impression d'avoir le JT de Jean-Pierre Pernaut.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette attaque
sur Zoé Quinn.
Oui. Elle est propre au milieu du jeu vidéo, tu trouves ?
C'est quelque chose de ludique et d'inconscient. C'est-à-dire quelque chose que font les enfants, comme dans les cours de récré. Non, mais si ça se trouve, ce sont des enfants.
Mais au-delà.
Mais ils jouent et ça a des conséquences dans la vraie vie.
Au-delà des gamers, on avait vu, il y a eu des histoires avec une développeuse chez GitHub qui avait dû démissionner, qui avait accusé. Une ambiance sexiste à mort. Pour la faire démissionner, rien à voir avec ses compétences. Enfin, il y a quand même beaucoup d'histoires. Il y a très peu d'hommes qui se plaignent de ce genre de choses. Et on voit quand même que ce sont surtout des choses qui sont très très véhiculées par Internet. Est-ce qu'à un moment il y a une configuration qui fait que femme, ambiance sur certains milieux, on va dire peut-être, je sais pas, gamer ou des choses comme ça, égale tout de suite attaque personnelle, raccourcis, insultes sexuées ou sexuelles.
Déjà, enfin, ce sont des gens qui sont fédérés autour d'une passion commune, donc ils s'autoproclament tous experts, donc ils acceptent pas d'avis extérieurs, donc ils ont des avis sur tout. Déjà, d'accord, de base. Moi, la communauté des gamers, je veux dire, cette affaire-là, ça serait passé avec une galériste et d'art, un artiste peintre et machin. Je veux dire, la nana serait fait défoncer dans les cercles des galeries d'art. Quoi.
Non, non, moi j'ai un autre exemple sur les gamers. Le mec qui dit me porgue, on en rigole. Ouais. Et la nana du grand journal qui se plante sur Twitch, on fait une pétition, 75 000 signatures.
Non, mais au-delà des pétitions, on voyait les réactions sur Internet, c'était salope, grosse de puce. En fait, attaquer sur le physique et même pas sur l'incompétence.
Voilà. Et donc, vous découvrez en 2014 que les gamers sont des connards.
Non, mais attends,
on parle de misogynie, on parle de
misogynie d'une communauté gamer ou de quoi que ce soit. C'est comme d'habitude, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la vraie vie et Internet. On est dans une société d'hommes qui est misogyne. Internet, c'est une société d'hommes qui est misogyne.
C'est vrai. On reste dans une société patriarcale, tu trouves, Sylvain ?
Bah oui.
Mélissa.
Le seul truc qui me chagrine dans cette histoire, c'est que mine de rien, quand je vous demande à vous, vous pensez quoi de cette affaire ? Vous dites, oh bah c'est rien.
Ah non, c'est pas vrai. Non, moi je dis que c'était une honte.
Moi les conséquences, vous dites, je les connais pas.
Ça crée quand même un.
C'est pas que c'est pas rien,
Internet, c'est quand même un truc qu'on adore et qu'on fréquente énormément. Et là, me dire si je fais un truc un peu trop hardcore. Non, mais il y a des gens qui vont venir me faire chier, tu vois.
Non, tu nous as demandé ce qu'on pensait de l'affaire Zoé Quinn. Pour moi, l'affaire Zoé Quinn, c'est même pas une affaire. C'est ça qu'on me disait.
Non, mais
voilà. Pour Mélissa,
vous avez même pas pensé de toutes les conséquences, tu vois. Vous avez pensé à juste le blog.
Est-ce que ça revient pour toi, Mélissa, sur ces histoires justement de féminisme qui ont été aussi assez exacerbées ces derniers mois sur l'Internet français, sous tous les débats? Où on sentait qu'il y avait aussi, c'était pas la misogynie, mais une forme de mecs qui sont, on va dire, libérés, modernes, qui comprennent l'égalité entre hommes et femmes, mais qui d'un côté ne comprennent pas à quel point les femmes peuvent être agacées et qui des fois aussi, c'est une forme de misogynie, disent oui bon, on a compris, je suis d'accord avec toi, je comprends, arrête d'en faire tout un plat. Est-ce qu'à un moment c'est aussi de ça dont vous plaignez sur Internet,
c'est que les féministes s'appellent le mansplaining.
Les féministes, c'est quoi le mansplaining?
En gros, l'idée
c'est quand des hommes t'expliquent la vie, quoi.
Ouais.
D'accord.
T'as pas envie d'être relou, t'as juste envie que tu te dises, enfin, tu vois, Dash, je sais que c'est un mec cool et qu'il est une nana et que tout va bien et qu'il est plutôt pour l'égalité des sexes. Mais en même temps, il dit, oh ouais, vous êtes relou, les féministes, et il y a trop de papiers. Non, mais pas toutes, tu vois, enfin, c'est juste un
espèce de climat. Comme les gamers sont pas tous des connards.
Tu vois, ou genre, ah bah oui, Jennifer Lawrence, bah, c'est de sa faute, elle a mis les photos.
Non, alors ça, je suis désolé, mais tu vois,
on l'a quand même beaucoup lu, vraiment. Pas que Serge Tisseron.
Le truc que, enfin, tu focalises vachement sur le ressenti par rapport à cette personne-là parce que c'est une femme. Moi, je suis le premier à te dire que les gamers sont tous des connards, c'est des hommes. Et pourtant, tu dis pas ouais, mais quand même,
femmes.
Tu les connais pas. Non, mais la grande majorité.
Non, mais là, quand tu parles des gamers, tu parles des gamers qui sont attaqués à ces.
Des gamers qui sont attaqués à Mathilde Serrel, des gamers qui sont attaqués à Mathilde Serrel, des gamers qui sont attaqués qui envoient le SWAT chez un mec parce qu'il les a défoncés à Battlefield.
J'ai vu ça aussi.
Complètement ouf.
Maintenant, ils prennent de la prison ferme. Donc.
Oui, bah bien fait pour sa gueule à lui, tiens. J'espère qu'il se. Bref.
Dans les douches. Voilà.
Voilà. Même à la cantine.
Donc, pour toi, Daz, Sylvain était assez d'accord pour dire qu'effectivement, il y a quand même une réalité des choses qui n'est pas jouée, qui est une réalité. C'est que Internet est le reflet de nos sociétés qui reste assez patriarcale.
Bah,
et qui, même si elle est plus égalitariste, n'est pas encore féministe. Et a des relents légers d'une sorte de misogynie light.
Mais pour moi, l'erreur, en fait, c'est de donner du crédit à toutes ces réactions-là. C'est-à-dire que dans l'affaire Zoé Quinn, c'est différent parce qu'effectivement, c'est un vrai déballage, c'est une curée, il n'y a rien à dire là-dessus.
Mais sur notre amie Anita et ses études sur le tropisme dans les jeux vidéo, qui était d'ailleurs d'accord ou pas d'accord, qui était un vrai travail, qui s'est fait effectivement insulter. On a été jusqu'aux menaces de mort, menaces sur sa famille, etc., qui a été obligé de déménager. Et on parle quand même de beaucoup de gens. Donc on parle pas d'un mec
détraqué. Non, mais ça, là tu sors des affaires qui sont super graves. Mais je veux dire, je vois souvent passer sur Twitter des sujets qui invoquent justement la misogynie, etc. Mais il faudrait même pas en parler. C'est comme si tu prêtais l'oreille à chaque fois que tu croises un relais PMU.
Après, c'est pas ce que tu voudrais. Est-ce que tu penses, enfin, justement, si tu les vois passer, c'est ce que tu penses qu'il y a quand même une réalité? Est-ce qu'Internet est misogyne?
Il y a une réalité, oui. Mais je pense qu'il y a quand même un effet de haut-parleur qui est complètement disproportionné, en fait.
Mais c'est vrai. Le Internet est le reflet du monde occidental, en gros. Hein.
On va raisonner local, on va pas raisonner global.
Si vous prenez la planète entière. Ne pas être misogyne, c'est hyper anormal. Ne pas être raciste, c'est hyper anormal.
C'est vrai.
Je veux dire, 90% de la planète est raciste. Je veux dire, les Chinois.
Et les 10% de cas, c'est du roumain, c'est ça, Sylvain?
Non, mais il y a énormément de peuples qui sont racistes et ils se posent même pas la question du racisme parce que c'est complètement normal.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Et donc, effectivement, il va y avoir une évangélisation culturelle qui va se faire par Internet et ça se fait malheureusement par des clashs comme l'affaire Zoé Quinn. Ayons espoir en le futur et donc, dans un monde
que ça tire des sonnettes d'alarme.
Mais, donc, ça c'est grave.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Fib, qui est que dans la douleur et au cas par cas et par empirisme, Internet va aider à s'améliorer, même si aujourd'hui Internet a l'air d'être le symbole d'un blocage dans la société ou d'un truc qui est vraiment laid.
Bah, c'est petit à petit. C'est vrai que ça va se faire de proche en proche, en parlant. Mais c'est pour ça que justement on montre ces affaires-là et on en parle comme ça et que.
Parce
que
non, mais ces affaires-là sont graves et il faut en parler. Je suis d'accord. Ouais. Je parle vraiment de tout le reste, moi.
Le pire, c'est que je pense comme Fibre, c'est qu'Internet est plus évolué par rapport à tout ça et plus conscient. Et du coup, ça craint pour le reste du monde.
Non, mais on a grandi avec Arnold et Willy. C'est vrai. Personne dans le monde ne marche même pas, etc.
Ouais.
Et aujourd'hui, je veux dire, quand on a eu Obama président, un noir, et il a eu le prix Nobel tout de suite.
Ouais, de la paix.
Ouais, de la paix.
Juste après
ça a été quand même l'aboutissement d'une campagne d'égalitarisme qui a été de longue haleine. Et aujourd'hui, on commence la même chose avec les femmes. Et quand on aura la présidente des États-Unis, voilà.
Je dis
au Front National, attention, les Français sont beaucoup plus machistes que racistes. Vous devriez mettre un homme à votre tête, voilà, parce que une femme ne sera jamais présidente de la France avant longtemps.
Fibre qui a espoir pour le féminisme et qui soutient, je pense que et le FN, ce serait pas Fibre.
Non,
tu l'as pas dit.
Malaise.
Bon, allez, on s'arrête là-dessus. C'est la fin de cette Studio 404 de rentrée. C'était bien de se retrouver là. En plus, on vous envoie une petite photo, mais on est au chaud chez Radio Marais. C'est très très sympathique.
C'est cosy.
On dirait qu'on est dans une petite contre-soirée hein, chez des gens branchus. C'est vraiment.
Les gens passent dans la rue, ils regardent.
Les gens passent dans la pièce et regardent.
Ouais, c'est très sympa. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir, Mélissa, Daz, Fibre, Sylvain. Encore merci.
Merci à
Radio Marais de nous accueillir.
Ciao.
On se retrouve très très vite avec plein d'autres sujets, pas du tout casse-gueule, pas de raccourcis, pas de dérapage.
Personne sur des tanks.
Pas de misogynie.
Pas d'accent chinois.
Top. Allez, ciao tout le monde.
Bye.
Ciao.